Oui, c'est lui qui présidait.
Bon, ben, je vais commencer par remercier Michel, que je n'avais pas vu depuis au moins 10 ou 15 ans. C'est la dernière fois que je t'ai vu, tu étais secrétaire général du SNCS, le syndicat national des chercheurs.
Alors, ça fait plus de 15 ans, c'est en 83 que j'ai cessé d'être secrétaire général.
Non, on s'était revu au ministère de la...
Tu peux porter ça,
c'est pas parce que voilà. Ah, je pensais que c'était...
Non, mais à moins que ça suffise.
Non, voilà. Tu distribuais des tracts. Oui, ça, mais... c'est ta manie, non, de distribuer des tracts.
Ouais, mais j'en suis au millionième, là.
Voilà, donc, c'est malheureusement... lors de l'enterrement de Jean Salem qu'on s'est retrouvé et qui m'a proposé de venir faire cet exposé. Donc merci à Michel, merci à vous d'être venu écouter cet exposé. Je dois vous dire que c'est un peu difficile de présenter une complexité redoutable dans toutes ces dimensions auprès d'un auditoire qui n'est pas particulièrement spécialisé et au courant des situations politico-sécuritaires et politico-militaires qui prévalent dans l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Donc j'ai organisé cet exposé en trois parties. La première partie concernera la référence des dates, des événements marquants, que je contextualiserai à chaque fois pour donner un éclairage de ce qui se passe. Ensuite, je ferai un peu référence à qu'est-ce que c'est que l'État, plus particulièrement au Mali, mais sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, en prenant comme exemple le Mali, la Mauritanie et le Niger, le Tchad aussi un petit peu. J'aborderai le problème de la militarisation transnationale de tout cet espace, et puis je terminerai sur une interprétation plus politique des enjeux qu'il y a actuellement sur cet espace. Alors, quand je dis espace saharo-sahélien, ça concerne la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Donc je vais partir de l'exemple malien parce que c'est celui que je connais le mieux et quelles sont les conséquences des situations politico-militaire au Mali sur l'ensemble de la sous-région et plus particulièrement au Burkina Faso puisque c'est le Burkina maintenant qui fait l'actualité. Je partirai de la situation de guerre civile en Algérie avec les mouvements djihadistes de 2007. 2007 est une date pour moi de référence puisque c'est la création de Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, issu du démantèlement du groupe salafiste pour la prédication et le combat en Algérie, qui a été démantelé par les forces militaires de l'ANP. Je rappelle que cette guerre civile, quand même, a duré une dizaine d'années. C'est pas n'importe quoi. Donc, une partie des éléments constituant ce groupe salafiste pour la prédication et le combat, ce qui est intéressant, je ne fais pas des fétichismes des mots, mais il y a une référence théologique, puisque c'est le salafisme, et puis une référence aussi aux moyens utilisés, puisque c'est le combat, groupe salafiste pour la prédication et le combat. Si on parle de combat, c'est pas du combat verbal, ça fait référence au combat armé. Donc certains de ces éléments se sont réfugiés dans le septentrion malien et ont créé le Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça, c'est en 2007. On peut considérer, je m'efforcerai de caractériser à chaque fois les situations, cette situation-là, et donc concernait essentiellement des cadres algériens. Certains d'entre eux avaient fait le coup de feu en Afghanistan, notamment Mokhtar Ben Mokhtar, je ne vais pas citer tout le temps des noms comme ça, mais donc c'est des gens qui étaient acquéris, et on peut considérer que leur arrivée au Mali a engagé un processus de sanctuarisation, j'entends par sanctuarisation, une implantation pérennisable dans le septentrion malien. Pérennisable, ça veut dire aussi avec l'aval implicite des autorités politiques centrales maliennes. À l'époque, c'était le président Amani Toumani Touré. Sanctuarisation aussi du fait que les populations autochtones du septentrion, pour certaines d'entre elles, ont donné des femmes en mariage. Donc c'est aussi un moyen de s'impliquer, de s'insérer dans les milieux sociaux, plus particulièrement dans les sociétés des Maures Brahmish, mais aussi dans les sociétés Touareg de Itnan, puisqu'il y a eu des mariages qui se sont faits. Donc 2007 est une date charnière parce que c'est du vivant de Ben Laden. C'est pas neutre que ACMI soit créé au moment où Ben Laden vivait encore, suite à une prolifération d'autres faits. Ça, c'est pour la dimension djihadiste, la dimension religieuse. Deuxième date qui est plus particulièrement remarquable avec toutes les conséquences que ça a actuellement, de 2011 jusqu'à maintenant. 2011, c'est l'intervention militaire franco-britannique en Libye. Je dis bien franco-britannique parce qu'elle a précédé l'intervention militaire de l'OTAN et de l'ONU. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait un philosophe dont j'ai oublié le nom, là, qui a une chemise blanche, je ne me rappelle plus, c'est le bazar de l'hôtel de ville, un truc comme ça, là, qui était le conseiller pour cette intervention militaire. Intervention militaire qui a été catastrophique après l'assassinat, je crois que le terme n'est pas... correspond au fait, après l'assassinat du colonel Kadhafi, qui était donc le guide de la révolution, le guide de la Jamaria libyenne, en octobre 2011. L'intervention militaire franco-britannique, c'est mars, bon, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, disons, 7 mois après, il y a l'assassinat du colonel Kadhafi. C'est aussi la même année que se crée un mouvement qui s'appelle le Mouvement National de Libération de l'Azawad, que je développerai par la suite, mais en même temps, toujours 2011, création d'un nouveau mouvement djihadiste qui s'appelle le MUJAO, Mouvement pour l'Unité et le Jihad en Afrique de l'Ouest, qui se démarque d'ACMI, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont sur des positions opposées. C'est simplement une distribution des rôles, et puis le problème aussi de leadership. Le MUJAO, une des caractéristiques du MUJAO, c'est que la composition de ce mouvement salafiste djihadiste, le noyau dur, si vous voulez, était composé de peuls, alors que dans le cas d'ACMI, le noyau dur, c'est pas exclusif, hein, mais l'équipe dirigeante, si vous voulez, c'était des Arabes algériens, dont certains d'entre eux avaient fait le coup de feu en Afghanistan. Ça, c'est pour 2011. 2012, c'est, je viens de dire que la création du MNLA s'est faite en juin, le 19 juin, mais l'insurrection armée intervient après la mort, l'assassinat du colonel Kadhafi. Il faut vous dire que lors des années des grandes sécheresses 69-73 et 83-84, beaucoup de Touaregs ont fui le Mali et le Niger pour se réfugier en Libye et plus particulièrement être incorporés dans les légions islamiques. Ils ont fait le coup de feu, donc ces Touaregs-là, au Liban, en Palestine, au Tchad, etc. Donc ils ont acquis une certaine pratique guerrière. Lors de la dissolution de ces légions islamiques qui étaient fondées sur le même modèle que la légion étrangère française, ont été incorporées dans l'armée libyenne. Après l'assassinat du colonel Kadhafi, ces gens-là se sont réfugiés, sont retournés chez eux. Rappelez-vous le contexte de l'époque, hein, toutes les armureries étaient ouvertes, tout le monde pouvait se servir, etc. Donc ils sont revenus avec un armement, pas de chasseurs, mais un armement particulièrement sophistiqué. Côté Touareg nigérien, ça s'est relativement bien passé. Je rappelle qu'il y a une frontière commune entre le Niger et puis la Libye, ce qui n'est pas le cas avec le Mali. Le Mali n'a pas de frontière commune avec la Libye. La frontière, l'intermédiaire entre le Mali et la Libye, c'est l'Algérie. Donc les Touaregs maliens qui sont retournés dans leur pays, certains sont passés par le Niger, d'autres sont passés par l'Algérie. L'Algérie, en tant qu'État, a considéré qu'il était nécessaire d'informer les autorités politiques maliennes en leur disant « Vous avez des compatriotes maliens armés qui veulent retourner chez eux, qu'est-ce que l'on fait ?» La réponse était « Vous les laissez passer ». Donc ils sont arrivés armés, bien armés, encore une fois pas avec des fusils de chasse, et le président de l'époque, Mani Toumani Touré, les a reçus d'une manière très humaine, pour ne pas dire humanitaire, leur donnant à manger, enfin tout ce qu'il faut, etc. C'est dans ce contexte-là que se crée le Mouvement National de Libération de l'Azawad, aux finalités indépendantistes, Mouvement National de Libération de l'Azawad. Je ne vais pas m'étendre sur la notion d'Azawad, parce que c'est une supercherie historique. L'Azawad n'a jamais été un territoire touareg, peut-être que dans le débat, ça va apparaître. C'est aussi à cette époque-là, au moment où se crée le MNLA, que se crée, en 2012, un an après la création du MUJAO, une nouvelle entité religieuse qui s'appelle Ansar al-Din, qui est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Iyad al-Ghali, qui a été un des leaders de la rébellion de 1990. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des rébellions, il y en a eu 5 depuis 1916. Peut-être que dans le débat, ça va y apparaître, étant donné les précisions. Il faut savoir qu'il avait l'intention de diriger ce mouvement national de libération de l'Azerbaïdjan et que finalement, ça ne s'est pas fait. Il a créé Ansareddin. Ce qui est intéressant, si on compare Hakmi, Mujao et Ansareddin, c'est que Hakmi, de mon point de vue, c'est une division du travail que je considère comme ça. C'est-à-dire, Hakmi, c'est la dimension internationale, puisque les otages sont pris au Niger, autre part, et le Mali. On peut considérer le Mali comme étant l'entrepôt des otages. Donc si c'est l'entrepôt des otages, ce sont eux qui contrôlent en définitive les choses. Donc Hakmi, dimension internationale, négociateur, etc., avec des cadres arabes algériens. Le Mujao, mouvement pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest. Donc il y a déjà une référence à une entité géographique qui est la CDAO. L'entité CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ansareddin est quelque chose de beaucoup plus local, puisque ça concerne, à l'époque, exclusivement la zone saharienne du septentrion malien, dirigée par la Touareg. Donc, en termes d'identification, ça a une signification importante. D'un côté, un peu en caricaturant les choses d'une manière un peu d'appartenance culturelle, vous avez Hakmi, qui est la dominante arabe, expérimenté, notamment par la guerre en Afghanistan. Le Mujao, ou le noyau dur, est une dominante peul malien, mais pas exclusivement. Et puis ensuite, en Saladin, la dominante Touareg, et puis aussi avec des Maures, et puis des Arabes. 2012 est encore une année particulièrement intéressante, puisque c'est un coup d'État qui a été perpétré par un capitaine qui s'appelle Amadou Aya Sanogo, pardon, qui est toujours en prison d'ailleurs. Donc, si vous cumulez sa création d'une nouvelle entité djihadiste, coup d'État, déclaration de l'indépendance de l'Azawad, recours aux armes, etc., on voit bien que la situation s'est particulièrement dégradée. Elle s'est dégradée également avec le fait qu'il y a eu une alliance signée, une convention signée entre les djihadistes et le mouvement national de libération de l'Azawad, qui déclare la création d'une république islamique de l'Azawad. Donc vous voyez la dimension religieuse associée à la dimension de politique, rébellion, groupes armés. Les djihadistes, c'est des groupes armés, hein, tout comme les autres, fait en sorte que 2012 est une année charnière qui conduit à une division de facto. Le Mali est séparé et divisé en deux. On peut considérer qu'à partir de Mopti, vous voyez Mopti, le Niger, la boucle, Mopti est là, et à partir de Mopti jusqu'à Arawan, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême nord malien, à la frontière algérienne, tout ça est sous la domination des djihadistes et puis des rébellions Touareg, la dominante Touareg. C'est dans ce contexte-là que le président de l'époque, le président par intérim, puisqu'il était président de l'Assemblée nationale, la Constitution veut qu'en cas de carence du pouvoir politique, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure la transition. C'est dans ces contextes-là que ce président-là, je suis un professeur de français, donc on l'a trouvé, décide de faire appel à l'intervention militaire française, notamment à travers l'opération Serval. Serval, c'est intéressant, parce que Serval est un petit félin saharien, grandes oreilles pointues, dont la caractéristique est d'uriner entre 30 et 35 fois par heure. Donc, c'est vous dire qu'il marque son territoire. Je fais une petite allusion perfide entre le fait que Serval, opération militaire, et Serval, petit félin saharien, marque aussi son territoire. C'est une manière aussi de dire que Serval commençait à marquer son territoire. Légalisé aussi par, légitimé par par la demande de ce président, légalisé aussi par l'ONU. C'est là qu'intervient, donc en 2013, la création de la MINUSMA, la mission c'est très compliqué, multidimensionnelle, donc de l'ONU, qui regroupe entre 12 et 15 000 soldats venant de toutes parts. Donc c'est le début de la militarisation de cet espace. Je dis bien le début parce que ça ne va pas cesser de se généraliser. Serval débute en janvier jusqu'en 1er août. Une des caractéristiques de Serval, c'est qu'à l'époque, c'est le président de la République était François Hollande, avait annoncé que cette intervention militaire, dont l'objectif était de stopper la descente des groupes armés salafistes djihadistes, qui avaient pour intention, ça fait partie de la propagande, à mon avis, il y a une partie qui est erronée, fait en sorte que de stopper l'avancée de ces groupes armés dont l'objectif était d'atteindre Bamako. Finalement, l'intervention de l'opération Serval les arrête à Konna et puis à Djabali. Il faut dire que les images de l'époque, l'opération militaire française Serval a été perçue comme une armée de libération. Il y a eu des petites fortunes qui se sont faites à Bamako dans la vente de drapeaux bleu-blanc-rouge. Donc on peut considérer que le fait que la descente de ces groupes-là salafistes a été stoppée est effectivement une victoire militaire. Je dis bien une victoire militaire. L'objectif qui consiste à dire on intervient parce que leur objectif est Bamako, je pense que ça fait partie de la propagande, parce que n'importe quel stratège qui a un peu des connaissances militaires, avant de conquérir une ville, il faut aussi contrôler et conquérir l'espace généré par ces villes-là. Le Mali, c'est pas le département des Hauts-de-Seine et c'est pas non plus la superficie de la France. Donc je pense que ça faisait partie de la propagande pour légitimer cette intervention militaire. Quoi qu'il en soit, après ce succès militaire, qui a duré à peu près 6, dont les conséquences politiques sont manifestées pendant 6 ou 7 mois, il y a eu un renversement, cette fois-ci sur le plan politique. Les gens ont pris conscience qu'en définitive, l'intervention militaire française n'était pas faite sur des bases pour préserver l'intégrité territoriale du Mali, mais que derrière aussi il y avait d'autres intentions non déclarées. Donc sur le plan politique, ça a été un renversement de position politique. Ça, c'est 2013. À la fin de l'opération Serval, ce qui est intéressant, c'est que cette opération militaire française se transforme en opération Barkhane. Barkhane, vous voyez, c'est les petites dunes, là, en forme de lune, là, qui ne concerne pas simplement le Mali, mais déjà concerne l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, ça veut dire la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad. Donc ça, 4500 militaires, je crois, et notamment 2000 militaires français Barkhane au Mali. Donc une extension quand même assez sensible. C'est aussi dans ce contexte-là qu'il y a une formation de nouveaux groupes armés salafistes djihadistes. L'opération Barkhane signe une convention, ça c'est en 2014, Barkhane c'est le 1er août, c'est toujours actuellement en œuvre, une convention le 19 décembre qui va s'appeler le G5 Sahel, qui est actuellement en cours de mise en œuvre, plutôt pas très bien, parce qu'il y a des tiraillements, il y a des problèmes de financement, etc. Je développerai ça tout à l'heure. Donc vous voyez, entre 2011 et 2014, une militarisation transnationale qui se fait de plus en plus importante. Finalement, sous la pression de la communauté internationale, et aussi de l'Algérie, puisque c'était l'Algérie qui servait d'élément médiateur pour rabibocher les autorités politiques militaires maliennes avec les ex, parce que maintenant il faut parler ex, les ex-rebelles Touareg indépendantistes, c'est l'Algérie qui sert de médiation. Médiation difficile, houleuse, c'est pas la première fois qu'il y a des rébellions au Mali, et c'est pas la première fois non plus que l'Algérie sert de médiation. Quoi qu'il en soit, la plupart des groupes armés signent, paraphent ces accords de paix dits accords d'Alger, et c'est simplement qu'en 2015 que ces accords de paix sont effectivement signés. Les accords de paix sont signés en 2015, nous sommes en 2019, ils ne sont toujours pas appliqués. On reviendra, on développera ça probablement dans le débat. Ce qui est intéressant aussi en 2015, c'est l'émergence d'une nouvelle katiba. Katiba, ça veut dire une sorte de bataillon, le katiba du Massina. Et donc, qui est un groupe salafiste djihadiste animé par un peul, on retrouve encore les peuls, qui s'appelle Amadou Koufa, qui est intéressant. Hein, j'ai fait traduire les 9 cassettes de Amadou Koufa, particulièrement intéressant parce qu'il dénonce les injustices, l'impunité, en termes autres que théologiques et autres que djihadistes. Je dirais qu'il dénonce l'impérialisme occidental, il le cite, il cite les Américains, il cite les Français, etc. Donc il a un certain écho dans un contexte où l'État malien brille par son absence, que ce soit dans le Septentrion ou au Mali central, l'État malien est absent déjà depuis plusieurs années. Il est absent et il cède la place aux milices et aux groupes d'autodéfense armée. Donc, si vous voulez, pour synthétiser un petit peu les choses, une prolifération des armes sur l'ensemble du territoire malien que l'on peut difficilement déconnecter du trafic de cocaïne. La drogue, il y a même un quartier, un Gao qui s'appelle le quartier cocaïne, parce que c'est des très belles villas qui ont été construites par les trafiquants de cocaïne. Chose intéressante, c'est que, contrairement à ce que vous pourriez penser, la cocaïne vient bien sûr du Sud, plus particulièrement de Guinée, elle vient du Venezuela, dit-on, et elle est acheminée sur l'Algérie et ensuite sur l'Europe dans un axe sud-nord. Ce qui est intéressant à la faveur de ce nouveau contexte, c'est que maintenant c'est surtout le contexte ouest-est, ça va jusqu'en Israël, ça revient en Europe, etc. C'est quelque chose d'absolument fantastique. J'ai fait des entretiens là-dessus sur la manière dont la cocaïne était acheminée. Tous les conflits intra-tribaux et inter-tribaux que ça pouvait générer pour le contrôle de ces drogues illicites. Je rajoute, parce que tout à l'heure j'ai oublié de le dire, que tous les groupes armés salafistes djihadistes en croque, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire qu'ils sont aussi, eux, dans le narcotrafisme. Bon, c'est un islam business qui n'est pas inintéressant, hein. On verra ça peut-être par la suite. Mais sa caractéristique, c'est qu'ils ont toujours été, eux aussi, dans les conditions de contrôle et d'acheminement des drogues illicites, et plus particulièrement la cocaïne, et puis le cannabis. Autre chose intéressante en 2015, c'est la création de l'État islamique dans le Grand Sahara, dans un contexte où déjà l'État islamique en Syrie commence à diminuer, donc une partie de ces éléments-là se réfugient dans la zone sahélienne. Ce serait une erreur de penser qu'il y aurait des oppositions irrédentistes entre les djihadistes du Mujao, d'Ansar Eddine, et puis de cet État islamique du Grand Sahara. C'est plutôt une sorte de division du travail qui renvoie aussi à des conditions d'alliance. Sur toute la frontière nigéro-malienne, il y a souvent des alliances de facto, je dis bien des alliances de facto, pas organiques, entre les groupes salafistes précédents et cet État islamique. Ça, c'est 2015. Ensuite, on arrive à 2017. Émergence encore, c'est 1, 2, 3, 4, un quatrième groupe de salafistes djihadistes, les Morabitoun, c'est les Almoravides, on dirait en français. C'est dans cette circonstance-là, en 2017, que se crée le groupement de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est comme ça que la presse l'a traduit. À mon avis, c'est une erreur, c'est pas un groupement de soutien, c'est un groupement pour la victoire de l'islam et des musulmans. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a référence aux armements, pourquoi ces musulmans s'attaquent aussi, dans un premier temps, à d'autres musulmans. Donc c'est pas un problème de soutien, c'est un problème de la victoire du salafisme djihadiste. Peut-être quelques précisions pour les non-initiés. Le salafisme n'est pas par nature djihadiste, parce que vous avez toute une tendance issue de la Wahhabiyya de l'Arabie Saoudite, qui est aussi un salafisme quiétiste. Donc c'est dans certaines circonstances que l'apparition, la transformation du salafisme quiétiste en salafisme djihadiste, légitimé, ils ont des arguments un peu béton, puisqu'ils font systématiquement référence au Coran et au Hadith. c'est-à-dire au comportement du prophète de son vivant. Donc il dénonce d'une manière virulente, j'aimerais bien qu'on en revienne là-dessus, parce qu'il marque des points incontestables sur les conditions d'application du mal et l'impact que ça peut avoir dans des sociétés où il n'y a plus d'ordre. Il n'y a aucune société qui peut vivre sans ordre. Donc ils apparaissent, dans certains cas, comme porteurs d'ordre et de justice. Moi, j'ai eu des entretiens qui me disaient, mais attends, il coupe la main au voleur, mais il coupe pas tout de suite. C'est-à-dire, il se fait bastonner, on lui dit, bon, ça va, la première fois, ça va, la deuxième fois, la troisième fois, on te coupe la main. Donc c'est tout un tas de discours auxquels les populations ne sont pas habituées, puisque depuis des années, il n'y a plus d'État. Donc c'est la porte ouverte à tous les abus, y compris à la criminalité organisée. Donc voilà pour les grandes lignes. Pour synthétiser davantage sur les groupes armés salafistes et djihadistes, je reprends ça parce que ça me paraît important, toute cette prolifération qu'il y a. 2011, le mouvement pour le djihad en Afrique de l'Ouest, encore une fois, le problème de la territorialité se manifeste déjà. Et on voit bien que ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, au Bénin et au Togo renvoie à cette descente maintenant sur les pays côtiers. En Saleddin, c'est intéressant parce que c'est la dimension, dans un premier temps, régionale, locale, je ne dirais pas régionale, locale. Donc ces trois groupes-là combinent à la fois la dimension internationale, régionale avec la CDAO et locale avec le Septentrion dirigé par un Touareg, ancien leader de la rébellion de 90, qui a été nommé consul à Jeddah en 1900, j'oublie exactement la date. Ensuite, ça c'est 2012, création de la République islamique de l'Azawad, donc on voit très bien aussi que dans le mouvement laïque, mouvement national de libération de l'Azawad, soutenu par les Français, que la dimension religieuse est très forte, puisqu'ils signent une convention avec les forces djihadistes, convention qui ne dure que 4 ou 5 jours, parce qu'une partie... Et de 4 ou 5 jours, parce que ensuite les autres membres du comité de transition de l'État de l'Azawad condamnent cette convention. En tout état de cause, cette dimension religieuse djihadiste existe jusqu'à maintenant. 2017, c'est El Morabitoun, et puis le groupe de soutien, c'est la version officielle, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc voilà pour un panorama, si vous voulez, sur la situation qui prévaut au Mali depuis 2011. La charnière 2007, c'est un petit peu à part. En l'espace de 8 ans, on peut considérer que le pays est complètement déstabilisé, et jusqu'à maintenant, même si on ne peut pas parler de partition territoriale officielle, dans les faits, il y a cette partition territoriale. Ça veut donc dire que l'autorité de l'État ne s'exerce plus sur l'ensemble du territoire national, donc on peut difficilement parler d'intégrité nationale. En revanche, on assiste à une prolifération de territorialité contrôlée par des pouvoirs autoproclamés, soit par les groupes d'autodéfense, soit par les milices, selon les cas. Donc, voilà la situation qui prévaut actuellement. Comment on en est arrivé là? C'est la deuxième partie de mon intervention sur qu'est-ce que c'est que l'État-nation depuis les indépendances jusqu'à nos jours en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas généraliser parce qu'on ne peut pas généraliser comme ça au niveau du continent. Si vous prenez les exemples de l'État malien, de l'État nigérien, Burkina aussi, Tchad n'en parlons pas, une des caractéristiques au moment des indépendances, c'est que le pouvoir d'État a eu beaucoup de difficultés à imposer son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national, et plus particulièrement dans les confins sahariens. Tous les pays que je viens de citer ont tous une frange saharienne, ce qui n'est pas inintéressant, parce que d'autant qu'en 1957, la France coloniale sentait bien qu'il fallait que dans quelques années, elle serait obligée de se retirer de ces colonies-là. Ça, c'était 1957. C'est en 1957 que se crée le ministère du Sahara et l'organisation commune des régions sahariennes. cette organisation commune des régions sahariennes, qui est un État pratiquement, visait à séparer le Maghreb de l'Afrique subsaharienne pour faire en sorte une bande saharienne sous contrôle français quand, au moment où on découvre du pétrole dans la région de Ouargla. Donc vous voyez, les enjeux sur les ressources extractives étaient déjà à l'ordre du jour en 1957. Bien sûr, cette organisation commune des régions sahariennes ne voit pas le jour, mais l'idée se prolonge jusqu'en 63-64. Intéressant aussi pourquoi la politique coloniale française crée cette organisation, c'est que cette organisation visait à séparer les deux États, l'État algérien, indépendant depuis 1962, à orientation socialiste, séparé du Mali, à orientation socialiste aussi, incarné par Modibo Keïta. Donc on voit bien la stratégie qu'il pouvait y avoir derrière. Et sur qui il s'appuie? Sur certaines populations de pasteurs nomades morts et aussi Touareg. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les enjeux et les objectifs sur l'espace sahro-sahélien datent depuis, comme on dit là-bas, donc depuis plusieurs années. Donc ça affaiblit sensiblement l'instauration de l'État sur l'ensemble des frontières héritées de la colonisation. Il y a eu des débats très très importants sur le maintien des frontières. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est très compliqué et puis ce n'est pas l'objet non plus de cet exposé. Deuxième élément qui fragilise sensiblement les États en formation, je dis bien en formation, les États, contrairement aux États européens, ne résultent pas de dynamiques historiques et politiques endogènes. Ça résulte quand même aussi de conceptions étatiques issues de l'Occident. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence entre des luttes politiques qui conduisent à la formation d'un État ou autre chose, ce n'est pas du tout les mêmes choses que lorsqu'il n'y a pas de lutte politique qui va dans le sens de la création de nouveaux types d'organisations politiques. Si on prend par exemple l'Algérie, comparé au Mali, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important. La troisième chose qui est importante, c'est des problèmes d'ordre climatique. Déjà, le climat a eu des causes et des conséquences politiques importantes. Je fais référence à la grande sécheresse de 1969-73, qui s'est transformée en famine généralisée. Famine généralisée, je pèse mes mots, c'est pas trop fort, qui a surtout touché les populations de pasteurs nomades et d'agro-pasteurs sahariens, mais pas exclusivement, mais aussi les populations sédentaires, peut-être à un degré moindre, parce que c'est pas le même type de rapport à la nature, c'est pas le même type de rapport à la ressource naturelle. Chez les pasteurs nomades, c'est fondamentalement la mobilité et la flexibilité qui peut caractériser ces sociétés. Donc, dans un contexte aussi où l'aide alimentaire a été, on peut dire, systématiquement détournée, plus particulièrement au Niger, parce qu'à l'époque, moi je travaillais au Niger, qui a même fait l'objet d'une publication un peu provocatrice, on avait intitulé ça « Les villas de la sécheresse ». Parce qu'effectivement, l'aide qui avait été accordée avait été détournée par les pouvoirs politiques, et les conséquences de ces circonstances politiques, ça a été un coup d'État qui a amené au pouvoir les militaires. C'est pour ça que je fais des liens entre les conditions climatiques et les conséquences politiques dans certaines circonstances. Ça, c'est pour la sécheresse de 1969-1973. 10 ans après, nouvelle sécheresse, 1983-1984, qui affaiblit encore les États concernés et les populations concernées. Et puis ensuite, la chose la plus importante dont les conséquences se manifestent encore, c'est les premiers plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale, qui touchent fondamentalement les deux piliers des sociétés, à savoir l'école, l'éducation donc, et la santé. Jusqu'à maintenant, il y a encore donc ces conditionnalités imposées par ce système bancaire. Et bien sûr, quatrième événement, la succession de coups d'État. On m'a dit qu'il y a bien avoir trois, et au Niger aussi, je crois, trois ou quatre, peut-être que c'est la mondiale combien. Donc, dans ces conditions, on peut comprendre pour les difficultés que ces États concernés ont été confrontés et ont fait en sorte que c'était de facto, dès le début, des États qui ont évolué dans des conditions de faiblesse imposées par l'extérieur et plus particulièrement par la puissance coloniale. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé non plus de la dévaluation du CFA. La dévaluation du franc CFA a été catastrophique parce qu'il fallait rembourser la dette au taux de l'emprunt. Donc le remboursement de la dette était doublé. Donc si vous conjuguez tout ça sur un espace de temps, disons d'une dizaine d'années, on comprend pourquoi les États, ces États concernés, étaient particulièrement affaiblis. Bon, la corruption, elle est endémique, elle est légendaire. Donc voilà maintenant pour la situation de ces États. En ce qui concerne le Mali, a eu une politique de réorganisation et une volonté politique de se soustraire de l'emprise néocoloniale. La première chose qu'a pris le président militant, je crois que c'est comme ça qu'il faut caractériser Modibo Keïta, a été de dire aux troupes françaises qu'ils étaient bien gentils, mais ils sont beaucoup, beaucoup mieux chez eux en France qu'au Mali. Donc il y a une rupture qui s'est faite dans ce sens-là. Autre rupture, le Mali est sorti de la zone CFA pour créer le franc malien. Bon, les conséquences de la création du franc malien sont discutables. Ça a conduit aussi à faire en sorte que ça a créé les conditions de l'affaiblissement. Il y a tout ça. Nationalisation de beaucoup de sociétés d'État, donc des transformations très très importantes qui ont fait en sorte que ce n'était pas supportable pour l'ancienne puissance coloniale. On sait aussi qu'à l'époque, c'était. J'ai oublié son nom, là, comment il s'appelle. Ça va me revenir. C'est une des services secrets français. Focard, voilà. C'est toute l'époque Focard. C'est l'époque Focard qui fait en sorte que tout le monde doute très fortement que les coups d'État n'ont pas été soutenus, voire fomentés par l'ancienne puissance. Donc, si vous combinez tout ça, on comprend pourquoi ces États ne sont pas à la mesure de répondre aux circonstances actuelles. Donc la terminologie officielle pour caractériser ces États, c'est les États faillis. Mais personne ne pose des raisons pour lesquelles ces États sont faillis. La causalité, on s'en fout, on s'attarde dessus. C'est surtout pas la peine d'en parler. Dans des contextes de guerre, comme c'est le cas actuellement, au Mali, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, alias Ibeka, vient de reconnaître dans un numéro de Jeune Afrique de cette semaine, il parle maintenant de guerre au Mali. Il se réveille. La guerre au Mali, elle n'existe pas depuis aujourd'hui. Hein. Depuis, on peut considérer que depuis 2012, elle est là. Donc, on assiste depuis 2012 à une militarisation transnationale de tout cet espace saharo-sahélien qui déborde l'espace saharo-sahélien puisque les problèmes sont les mêmes pratiquement en RCA, militarisation, Tchad n'en parlons pas, mais maintenant c'est aussi les pays côtiers qui sont abordés. Chose intéressante dans cette militarisation de l'espace saharo-sahélien, c'est l'intervention de puissances étrangères qui n'ont pas l'habitude d'intervenir sur le plan militaire, notamment la Russie. La Russie, c'est intéressant parce que c'est intéressant et déroutant, mais tellement significatif, c'est que une initiative a été prise par des éléments de la société civile qui a recueilli 8 millions de signatures. À mon avis, ils ont gonflé considérablement les chiffres, mais qu'importe, même si les chiffres sont gonflés, c'est secondaire. L'initiative est intéressante, ils ont fait circuler une pétition demandant le retour de la Russie. Le Mali, à l'époque de Modibo Keïta et au-delà, avait des relations privilégiées avec l'Union soviétique. Ce qui est intéressant, c'est que, au vu de la politique de la Russie au Moyen-Orient et plus particulièrement en Syrie, ça fait un petit peu tache d'huile. Donc, ils sont allés déposer cette cette tonne de pétitions auprès de l'ambassadeur de Russie au Mali, qui leur a dit « Vous êtes bien gentils, moi je vous aime bien, mais je ne négocie pas avec vous. Ce n'est pas avec vous que je négocie avec l'État malien. » En tout état de cause, et ça, là aussi c'est significatif, c'est que 3 ou 4 mois après le dépôt de ces pétitions, ça a fait l'objet de l'arrivée du vice-président des affaires étrangères russe qui est venu au Mali. Donc on est en droit de faire une relation de cause à effet entre ça et ça. Élément nouveau maintenant, donc 2 ans après, c'est que la Russie signe une convention militaire, cette fois-ci officielle, avec l'État malien. Autre chose intéressante, le rôle de l'Allemagne. Bon, l'Allemagne est présente, bien sûr, les Chinois aussi sont présents dans la MINUSMA, l'organisation militaire de l'ONU. L'Allemagne est présente d'une manière autonome, y compris au Niger. Chose maintenant beaucoup plus intéressante, c'est que au Niger, je fais un petit saut au Niger, c'est que les Émirats Arabes Unis ont une base militaire, je dis bien une base militaire officielle, au Niger. Si vous prenez l'exemple du Niger, par rapport au Mali, le Niger concentre des bases militaires les plus importantes. Vous avez les Américains, qui ont une base de drones, des drones offensifs, d'Allemagne, les Émirats Arabes Unis. On m'a dit, mais je n'ai pas pu vérifier, qui se sait posté à la frontière libyenne. S'il y a des antennes, des postes militaires à la frontière libyenne, la question que je me pose, quand même, les Émirats Arabes Unis sont dans l'orbite de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, sauf erreur de ma part, elle est dans l'orbite des Américains. Donc si effectivement ils sont à la frontière libyenne, la question que je me pose, est-ce que c'est pour soutenir Haftar, le maréchal Haftar, ou qu'est-ce qu'il y a derrière? En tout état de cause, c'est quand même très inquiétant de voir cette prolifération, cette institutionnalisation de militaires étrangers dans le contexte du Niger. Ensuite, je n'ai pas fait référence tout à l'heure, mais ça me revient à l'esprit, la présence des militaires américains. Je rappelle que la stratégie américaine à travers AFRICOM était de trouver des pays d'accueil pour instaurer des bases militaires pérennes. Ça a été un échec. Je crois que le seul pays qui a accepté une base militaire pérenne américaine était le Liberia. Donc pas très intéressant pour les Américains, donc ils n'ont pas fait. En revanche, vous avez actuellement l'opération Flintlock, qui est une des mouvances d'AFRICOM, qui fait des manœuvres. Il y a 2000 soldats américains qui ont fait des manœuvres où ? Au Burkina Faso et en Mauritanie, non, c'est d'ailleurs Mauritanie, je crois, concernant 30 pays africains sur les mêmes objectifs que le G5 Sahel. Donc on ne parle pas beaucoup de la présence américaine en Afrique, mais elle est quand même bien là, même si AFRICOM, qui s'est réfugié à Stuttgart, dans le QG d'aller à Stuttgart, là. Donc vous voyez, cette militarisation généralisée de l'espace saharo-sahélien, elle n'est pas dénuée aussi d'intérêt de protection économique. Je pense que l'intervention française vise à protéger les intérêts économiques nationaux, mais aussi elle vise à protéger les intérêts économiques français. Y compris, c'est une hypothèse qui m'a valu d'être censurée dans une revue qui s'appelle Diplomatie, on peut penser à cette époque-là que le barrage militaire de tout cet espace saharo-sahélien visait à protéger les intérêts du groupe Vincent Bolloré, qui n'est pas particulièrement un humaniste de première qualité, d'autant qu'il est actionnaire dans 15 ports africains et qu'il contrôle aussi des réseaux ferroviaires douteux, puisque un homme d'affaires béninois l'a mis en procès récemment, il a perdu son procès. Je crois que Bolloré a perdu aussi d'autres procès ici, je crois qu'il a été mis en examen à trois reprises. Donc, on me dit, mais ça, c'est pas un fait, c'est une hypothèse. Donc, vous enlevez ça, on vous publie. C'était destiné à la grande réunion sur la paix à Dakar, où il y avait des chefs d'État et des premiers ministres. Et si vous refusez, ben, tant pis pour vous. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas d'état d'âme, vous me supprimez, c'est le cadet de mes soucis. C'est vous dire à quel point à quel point on ne peut pas parler. Même ici actuellement, les journalistes me disent, oh, si nous on fait référence à Bolloré, il y a une censure, voire une autocensure qui s'instaure immédiatement. Donc voilà les circonstances. Maintenant, et j'en aurai terminé, oui, j'ai encore quelques temps un peu.
Oui.
Sur la troisième partie, sur le contenu maintenant des accords de paix. Les accords de paix sont intéressants parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que le Mali a été un des précurseurs pour la mise en place de la décentralisation. Le Mali a un peu suivi le modèle français, la décentralisation. À l'issue des négociations qui ont conduit à la signature des accords de paix, accord d'Alger, ça va un peu plus loin. On a d'abord parlé de décentralisation poussée. Alors on peut pousser, on pousse un petit peu, vous tombez dans le gouffre. Donc en définitive, c'est une régionalisation. La régionalisation, l'analyse du contenu de ces accords de paix est intéressante. Elle est intéressante parce que le président de région, intéressant, ça a été imposé, j'ai oublié de le dire, ça a été imposé par la communauté internationale, ces accords de paix, par l'Algérie, par la France, et j'ai eu l'impression que le gouvernement malien n'était pas particulièrement actif dans le contenu de ces négociations. Intéressant parce que le président de région est élu au suffrage universel direct, selon les mêmes modalités que le président de la République. Habituellement, en tout cas, quand on se réclame de la démocratie, un président de région élu par ses pairs du conseil régional, c'est pas du tout la même chose qu'un président de région élu au suffrage universel direct, qui a pratiquement tous les pouvoirs. Je dis bien, tous les pouvoirs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut difficilement faire l'économie des configurations ethnico-territoriales. Bien sûr, les accords de paix prennent bien garde de ne pas tout de suite aborder ce type de problème, mais nécessairement, ce sera ça. Donc ça veut dire aussi que c'est déjà une approche ethnique du politique. Et puis, la troisième chose qui est un petit peu révoltante, c'est que les régions qui ont été annoncées ne recèdent pas les mêmes richesses. Or, ces accords de paix ne prévoient aucun organe transversal qui serait susceptible de ventiler, d'équilibrer les richesses. Donc, je dis, c'est une institutionnalisation de fait des inégalités sociales. C'est comme ça que ça se pose. Je parlerai tout à l'heure pourquoi je dis ça à propos des ressources extractives. Donc ces accords de paix signés en 2015, encore une fois, nous sommes en 2019, c'est toujours pas appliqué. Pourquoi c'est pas appliqué? Ceux qui sont les plus partisans de ces accords de paix, c'est les ex-rebelles qui, eux, bénéficient sensiblement de ces accords du contenu de ces accords de paix. Autre chose qui va peut-être vous surprendre, quand on connaît un petit peu le Mali et les situations politiques du Mali, on n'est pas étonné. Les signataires, les ex-rebelles, se sont divisés en deux grandes mouvances. Vous avez la plateforme, considérée comme étant pro-malien, pro-État, et la coordination des mouvements de la SAWAD, considéré comme étant anti-État, et plus particulièrement dans la région de Kidal, dans la région donc du nord-est du Mali. Il faut souligner que toutes les rébellions post-coloniales sont toutes parties de Kidal. Elles ont toutes été soutenues à partir de Kidal par la puissance coloniale française. Chose intéressante, c'est qu'ils reconnaissent l'intégrité territoriale. Tout ça, concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'administration civile et militaire malienne est interdite d'accès à Kidal. Donc, de facto, c'est un statut particulier qui, en définitive, fonctionne comme si c'était un État. Cet État est reconnu de facto, je dis bien de facto, par l'ONU, puisque il y a 6 ou 7 mois, ils ont été reçus par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas n'importe quoi. Donc, quelle a été la réaction du gouvernement malien?
Aucune.
Absolument aucune. Donc, violation des accords de paix, mais personne ne dit rien. Ensuite, plus près de nous, je veux dire, il y a deux ou trois mois, les autorités de la coordination du mouvement de l'Azawad, qui regroupent, si vous voulez, l'ancienne aristocratie de Touareg, établit un règlement d'accès sur le territoire de Kidal, avec, bien sûr, le drapeau de l'Azawad, et puis capacité à délivrer des cartes d'identité sur le territoire malien dont ils reconnaissent officiellement l'intégrité malienne. Bien sûr, un Malien ne peut pas se rendre à Kidal sans que la CEMA lui délivre une carte qui lui permet d'accéder. Alors quand vous voyez ce genre de situation où la communauté internationale ne dit rien, l'Algérie médiateur ne dit rien, la France ne dit rien, et que les autorités politiques maliennes ne disent rien, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça va complètement dans le sens de l'institutionnalisation d'une future division, partition territoriale du Mali. Encore une fois, vous n'allez peut-être pas me croire, mais quand le Premier ministre malien se rend à Kidal pour faire la propagande électorale du second mandat du président de la République du Mali, il y va sous les conditionnalités imposées par les Touaregs de Kidal. Je dis bien sous les conditionnalités, sinon il ne vient pas. Ensuite, quand le président de la République en personne se rend à Kidal et qu'on le considère un peu comme un griot parce qu'on lui met le voile de tête un petit peu n'importe comment, il avait l'air tellement ridicule, c'est la même chose. Il vient sous le drapeau de l'Azawad et pour lui faire plaisir, on met à côté du drapeau de l'Azawad le drapeau malien. Donc la symbolique du drapeau de l'Azawad est bien claire, c'est nous sommes un État indépendant et on vous accepte avec nous, on négocie d'égal à égal. Voilà un peu la situation qui prévalait il y a encore 6 mois. Maintenant, et j'en aurais terminé là-dessus parce que je commence à être déjà un petit peu fatigué. Ouais. Voilà. Donc sur la situation qui prévaut dans le Massina. La situation qui prévaut dans le Massina, on peut dire, est dramatique. Encore une fois, y compris dans le Massina, l'État est absent, c'est une zone de non-droit, tout comme le Septentrion, c'est une zone de non-droit, la porte ouverte à tous les abus, aux milices. Milices, groupes armés salafistes djihadistes incarnés par Koufa, et aussi groupes d'autodéfense qui prend un caractère. Ça prend un caractère, je dis bien ça prend un caractère, ça ne veut pas dire que c'est comme ça. L'affrontement interethnique entre Dogon, les sédentaires Dogon, et les nomades Peuls, où l'amalgame fonctionne très très bien. Très très facile de l'amalgame. Faire l'amalgame tout à l'heure, j'ai fait référence au mouvement pour l'unité du djihad en Afrique de l'Ouest, dont le noyau dur était. Des Peuls, donc tous les Peuls sont des djihadistes, ça va de soi, sinon c'est pas drôle. Donc ce type d'amalgame fonctionne très très bien. Côté Dogon, ils font l'amalgame entre une confrérie de chasseurs, une bien confrérie de chasseurs qui s'appelle les Dozo, si vous voulez, à dominante Dogon. Mais c'est une confrérie, c'est pas une ethnie. Donc les journalistes, bêtement ou intentionnellement, j'en sais rien, caractérise cette confrérie comme étant un groupe de chasseurs. On n'entre pas dans une confrérie comme ça, hein. Il y a tout un rituel à faire, et les connaissances pour rentrer là-dedans, ce n'est pas 15 jours de formation, hein, c'est plusieurs années. Donc ça rentre là avec un costume particulier, le costume des chasseurs, donc présenté par la presse comme étant un groupe d'autodéfense Dogon, ce qu'elle n'est pas. Donc dans ce contexte-là, il y a eu... Moi, je ne parle pas de tentative de génocide, mais il y a eu tout un courant qui allait dans ce sens-là. On ne peut pas confondre des tueries de masse, puisqu'il y a eu un village peul qui s'appelle Ossagou, où il y a eu 160 tués avec, dans des conditions horribles. Hommes, femmes, enfants, brûlés, tout. Un véritable massacre. Je crois que le terme massacre de masse peut parfaitement convenir. Mais ça n'a rien à voir avec un génocide comme certains veulent le faire croire. Ensuite, 160 morts, c'est pas du tout négligeable. D'autant que ce massacre-là a lieu à côté d'un village qui est à environ 30 km où se trouvent des militaires, cette fois-ci des militaires maliens qui sont intervenus plusieurs heures après le massacre. Donc, des exactions aussi commises par certains militaires maliens sur les Peuls, parce que pour un militaire malien, tout Peul, bien sûr, est un djihadiste. Et comme ils ont comme consigne de lutter contre les djihadistes, et bien on lutte contre tout et n'importe qui. Groupe d'autodéfense aussi qui s'est constitué autour des Dogons, qui eux-mêmes ont été victimes plus récemment de massacres. Ils ont annoncé 95 morts, mais les autorités politiques maliennes ont dit non, c'est pas 95, c'est 35. Vous vous rendez compte le niveau de discussion qu'il y a dans ce pays. C'est quelque chose d'horrible. Ensuite, il faut mentionner aussi quand même qu'il y a eu des témoignages qui ont consisté à dire « mais ». Les gens qui sont intervenus avec le costume, avec l'habit des chasseurs, ne parlaient pas français, ils parlaient une langue étrangère et qui n'étaient pas des langues vernaculaires maliennes. Donc c'est vous dire aussi que cette situation-là, c'est la porte ouverte aussi à la criminalité organisée. Reste le problème suivant, qui a intérêt à faire de l'instrumentalisation, de la manipulation de conflits interethniques? Le conflit interethnique, il crée les conditions d'un embryon de processus de guerre civile. Qui a intérêt à la guerre civile? Je sais poser la question, mais je n'ai pas de réponse. En tout état de cause, la question me paraît pertinente et légitime. Il y a des forces politiques qui ont intérêt à aller dans le sens d'une guerre civile. Alors, l'hypothèse, pour moi, est la suivante, c'est que, bon, je vais faire maintenant une interprétation plus géopolitique. Je constate, c'est un constat, que les États-nations ou les États unitaires ont fait leur vie. Ils constituent des obstacles à la ramification du système politique et économique du capitalisme mondialisé. Ça, c'est ma conviction. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais je considère que là. Et que le Mali, à travers le contenu des conditions d'application des accords de paix avec la régionalisation est les prémices d'un fédéralisme. Le fédéralisme, j'ai rien contre, mais le fédéralisme ne peut fonctionner que dans le cadre d'États forts. Or, en Afrique de l'Ouest, comme au-delà de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a aucun État fort qui est susceptible de faire fonctionner le fédéralisme. Le fédéralisme est à l'ordre du jour. Pourquoi? On le voit avec l'Europe. L'Europe fédérale, c'est ça, hein, y compris l'Europe de la défense. Les grandes puissances mondiales, cette fois-ci, fonctionnent sur le régime des systèmes fédéraux. Donc les stratégies du capitalisme mondialisé, c'est de créer des conditions d'organisation politique uniformes. Je fais référence cette fois-ci par comparaison et un peu par analogie aux années 90 avec les conférences nationales. 90, le système capitaliste mondial était déjà aussi en crise. Or, l'obstacle à la ramification de ce système, c'était les pouvoirs dictatoriaux à parti unique dans tous ces pays-là. Ensuite, il y a eu le discours de La Baule, la presse a présenté ça, le discours de La Baule comme étant la démocratie, etc. Loin s'en faut, ça a été la mise en œuvre publicitaire de la politique de la Banque mondiale qui était à l'époque dirigée par M. Conable, qui avait très bien compris que pour que le capitalisme puisse se développer, il faut la démocratie. Dans un premier temps, le capitalisme est porteur de pratiques démocratiques. Donc il y a eu un engouement sur les conférences nationales. Notamment au Niger, la conférence nationale a duré plus de 3 mois. Elle a permis l'émergence d'une nouvelle élite politique pratiquement partout. Au Bénin, au Mali à un degré moindre, puisque elle n'a pas duré si longtemps. Donc, si je compare la situation de 90 à celle de maintenant, qui est beaucoup plus grave que celle de 90, je suis en droit de penser qu'en définitive, une des solutions, je dis bien une des solutions, c'est la ramification des systèmes fédéraux sur l'ensemble des pays de l'espace saharo-sahélien. Ils sont tous touchés par la déstabilisation des États-nations, déstabilisation générée par les groupes armés salafistes djihadistes. L'objectif, c'est sûr, ils veulent créer le califat, le califat. Mais pour y arriver, il faut déstabiliser les pouvoirs centraux. Les pouvoirs centraux sont incarnés par l'État-nation, même si l'abus de vocabulaire sur une nation, c'est difficile. Hein. Quand vous avez une organisation, vous avez plusieurs ethnies, comment se crée la nation? si elle peut se créer, elle ne se créait pas en l'espace de 30 ou 40 ans, il lui faut beaucoup plus de temps. Donc c'est l'obstacle, voilà, d'où la nécessité de créer une organisation fédérale qui institutionnalise les rapports d'inégalité. Moi, si je suis multinationale, je ne veux pas investir dans une région où il n'y a que du sable. Je vais investir dans une région où la rentabilité sera plus difficile pour moi. Et pour ce faire, ça régénère les dynamiques du système économique capitaliste. Je pense que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Alors, les anciens diplomates du Mali, etc., me disent « Ouais, quelle connerie, la théorie du complot, etc. » Je dis « C'est pas la théorie du complot, je ne dis pas que ce qui se passe là a été pensé pour arriver à ça. » Les capacités d'adaptation du système, elles sont redoutables. Je dis bien redoutables. Capacité d'adaptation aux nouvelles réalités, il n'y a pas mieux. Donc, la question que je me pose, parce qu'il y a quand même prolifération sur le Burkina, le Bénin maintenant, le Togo, ça y est, ça va y passer. Je pense que la Côte d'Ivoire, on va créer les conditions... conditions politiques vont se créer pour faire en sorte, il y a déjà eu un attentat à Petit Bassam en Côte d'Ivoire il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Si je fais la comparaison avec l'Europe, les forces les plus conservatrices vont dans le sens d'une Europe fédérale. Ceux qui défendent, c'est pour ça que la politique maintenant c'est difficile, ceux qui défendent les idées de la nation, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire que la nation, qui était une valeur cardinale chez les progressistes, et notamment chez les communistes, maintenant s'est appropriée par le... comment il s'appelle maintenant ? Rassemblement national. Si vous écoutez les discours du Rassemblement national, moi je me rappelle des discours que le Parti communiste français tenait il y a quelques décennies. Il n'y a pas beaucoup de différence. On comprend pourquoi aussi une partie du peuple français, de la classe ouvrière, vote pour le Front National. Ils ont déjà entendu ce type de discours. Ils ne vont pas chercher plus loin. C'est pour ça que la situation est très grave, parce qu'elle entretient une confusion idéologique qui fait en sorte qu'on intervient, on intervient au niveau épidermique, au niveau émotionnel, sans réflexion politique. Le problème étant, quels sont les partis politiques progressistes qui sont susceptibles de générer des réflexions de type idéologique sur la base de stratégies politiques. En tout cas, c'est pas au Mali. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il n'y a pas un retour à l'idéologie au sens politique du terme, je crois que les forces progressistes peuvent attendre longtemps pour réapparaître. Donc, et là, j'en aurais terminé sur le Mali. Le Mali actuellement, qui dirige le Mali ? Dans l'article qui va sortir prochainement, je parle de la République des imams. C'est des imams qui dirigent le pays. Pas les salafistes djihadistes, je dis bien les imams. Les imams, quand il y a eu le code de la famille, qui est un code de la famille progressiste, avec des conditions d'héritage, d'égalité entre hommes, femmes, l'âge au mariage, etc., ça a été voté par l'Assemblée nationale. Que font les imams wahhabites, c'est-à-dire Diko? Il intervient sur le président de la République de l'époque, il dit maintenant ça suffit, tes conneries, on n'en veut pas. Et ils disent on n'en veut pas, que fait le président de la République? Il repasse en seconde lecture à l'Assemblée nationale, qui condamne le code de la famille. Premier point. Ça c'est quand même pas n'importe quoi. Donc c'est le poids politique des imams et de la religion, c'est pas petit. Le deuxième, plus près de nous, et le Premier ministre qui sous Mouveï Mega ne plaisait pas aux religieux, plus particulièrement à la Wahhabia incarnée par Biko. Pourquoi ? Parce que dans le précédent gouvernement, il y avait des subventions qui étaient accordées aux religieux. Lui, le Premier ministre qui s'est fait dégommer, il a supprimé la contribution de l'État religieux de 50%. Ils n'ont pas du tout apprécié. Donc il y a eu une offensive religieuse contre ce Premier ministre en alliance avec l'opposition laïque. Laquelle opposition laïque intervient sur des règlements de compte de personnes, mais pas sur des positions politiques. Loin s'en faut. En conséquence de quoi c'est, et, ben, et donc, il a été dégommé. Par-delà le fait que le président de la République disait qu'un jour avant, je ne me séparerai jamais de Soumaïla Boubeï Méga. Ça, ce n'est pas une parole en l'air, puisque ensuite, il s'est retourné et il a accepté sa démission. C'est vous dire que c'est une situation très, très difficile pour faire des analyses politiques, y compris de prospective, tant il y a confusion, tant que des groupes se font, se défont. D'une manière, pour des intérêts d'ordre professionnel, je me suis amusé à faire des listes d'émergence de groupes armés. C'est un cahier de 100 pages qu'il faut. Donc tout ça est très très significatif. Je demeure persuadé que, mais ça c'est a posteriori, que le Mali est un laboratoire d'expérience, de réorganisation du politique pour créer les conditions de nouvelles modalités d'organisation du politique à travers le fédéralisme. Je crois que le fédéralisme est à l'ordre du jour un peu partout et que les États-nations, ils nous emmerdent, c'est fini, il faut passer à un autre type d'organisation parce que c'est encore des obstacles à la logique du système dominant. Là, je ferai une petite transition un peu rapide et un peu provocatrice avec Trompette, là. Trompe. Contrairement, moi je pense que c'est pas un débile, premièrement, il a une stratégie d'hégémonie qui passe par le développement systématique de relations bilatérales au détriment des relations multilatérales, parce que les relations multilatérales sont contraignantes, alors que dans le cas des relations bilatérales, il peut faire ce qu'il veut. Ça ne me convient pas, je me retire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Il n'est pas soumis à des contraintes institutionnalisées avec d'autres pays, etc. Donc il fait des trucs. Maintenant, la politique, c'est la politique du tweet, le coup de la Corée du Nord avec la ligne, là, qui résulte d'un tweet. C'est fabuleux. C'est loin d'être un cinglé. Hein. Moi, je ne crois pas, contrairement à certains des camarades, que cette pratique-là, elle vise à faire en sorte, elle vise à son électorat. On ne peut pas dissocier son électorat des stratégies qu'il met en place. C'est pas par hasard que les États-Unis d'Amérique, sur le plan institutionnel, refusent de financer le G5 Sahel, mais que Flintlock est quand même présent. Non seulement Flintlock est présent, mais des bases américaines quasiment pérennes sont au Niger. Les services de renseignement nigériens sont entre les mains des Américains. Donc, il ne se désintéresse pas de l'Afrique, hein, loin s'en faut. Il a déjà des relais en place, c'est pas la peine qu'il développe sa stratégie. En revanche, ce qui est intéressant, et j'en aurais fini, mais ça fait 4 fois que je le dis, j'en aurais fini, c'est l'émergence de nouveaux arrivés tels que les États, les Émirats Arabes Unis, l'Allemagne aussi, c'est pas n'importe quoi, hein. Madame Merkel a déjà fait un voyage, elle a fait un voyage récemment, là, il y a 15 jours, 3 semaines, au Sénégal, et puis, je ne sais plus encore, dans d'autres pays. Elle avait fait un type de voyage il y a déjà un an, donc ça veut dire que l'Allemagne a une politique aussi vis-à-vis de l'Afrique. Ensuite, on peut se demander la nature des relations qui va dans le sens de la création d'une défense européenne. La défense européenne, c'est aussi un des éléments du fédéralisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair ou confus, je suis un peu fatigué, donc j'arrête, je bois un coup, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Bravo.
Bois un coup tranquillou. Hein. Merci André, je crois que ça contribue à éclairer quand même... malgré la chaleur, nos connaissances sur la situation. Je crois qu'on a une petite heure, hein, donc on a le temps de dialoguer, de poser des questions, de répondre. On peut y aller, voilà, le temps qu'il est fini de tousser.
De cracher.
Allez, vas-y.
Alors,
est-ce que vous entendez, sinon vous faites passer le micro?
J'avais vu une vidéo d'Alain Badiou qui développait, lui, je ne dis pas ce que vous avez développé, l'idée que, alors je n'ai peut-être pas tout compris, donc je vous demande de l'éclairer, l'idée que les capitalismes, en fait, développaient des régions, comment dire, de déstabilisation, justement, en instaurant des groupes mafieux un peu partout, pour pouvoir plus facilement pénétrer, perpétrer les pillages et se perpétuer également. Voilà ce que j'ai compris dans ce que j'ai, voilà, ce que j'ai compris dans ce que disait Bedworth. Je crois que ce n'est pas tout à fait en contradiction avec ce que vous dites, parce que vous, vous parlez de fédéralisme, finalement d'une forme d'institutionnalisation du désordre instauré par ce capitalisme. Alors voilà, s'il y a quelque chose à compléter par rapport à ce que moi j'ai compris, peut-être qu'il avait une autre conclusion, voilà, je vous demande de...
Non,
je sais pas si vous êtes d'accord, je... d'accord.
Tu réponds tout de suite ou on reprend quelques questions?
Non, je crois que c'est peut-être vas-y. Mieux de répondre tout de suite ou non?
Oui, alors, vas-y, allez, vas-y.
Bon, moi je souscrirais à cette démarche de Bellum, hein, c'est le point de vue de l'économie mafieuse.
Oui, d'accord.
Je peux faire un numéro pour Recherche Internationale, j'ai des difficultés à trouver quelqu'un qui me fasse un article sur l'économie mafieuse dans l'espace afro-sahélien, c'est le rôle de la drogue. Et c'est pas simplement que la drogue, on ne peut pas dissocier la drogue des armes. Parce que tout le pays est armé, mais c'est pas des petits pistolets, hein, c'est aussi des missiles. Pendant un moment, au moment de l'assassinat de Kadhafi, ils sont venus avec des missiles. Donc c'est des conflits interethniques qu'il pouvait y avoir dans l'OTAN pour les conditions d'accès à la ressource et aux ressources naturelles. Ça se faisait à coup de bâton ou à coup de fusil autochtone, c'est rien du tout. Maintenant, c'est pas le cas. Donc c'est des morts. Plus de 100. Donc, moi, je ne sais pas, j'irais dans ce sens-là, c'est que, dans un premier temps, on utilise le politique, et le politique est incarné par les groupes salafistes de djihadistes dont l'objectif est de déstabiliser les pouvoirs centraux. Bon, ce n'est pas très difficile pour les déstabiliser, parce qu'ils étaient déjà très stables, et en même temps, c'est pas après, je ne pense pas que ce soit linéaire, hein, en même temps se développe une économie souterraine de type mafieux. Hein. La création des villas cocaïne à Gao, c'est pas simplement le petit point de base, hein. Ça touche aussi les appareils d'État. C'est la raison pour laquelle je dis quelles sont les forces politiques et économiques qui n'ont pas intérêt à aller dans le sens de l'application des accords et de retour à la paix. On a la déstabilisation généralisée, elle passe par les conflits interethniques. Et les conflits interethniques, vous les manipulez comme vous voulez. Dans des périodes de crise, je me replie nécessairement à l'identité, qui est une notion parfaitement idéologique, mais très efficace sur le plan politique, je me replie sur mon groupe ethnique. Et ensuite, j'utilise des propos globalisants qui ne renvoient à aucune réalité parce que c'est surtout des problèmes d'ordre locaux. Et je dis les Peuls se cassent la gueule avec les Dagons. Et ça marche comme du petit pain. Et vous avez des relais habituels des médias qui vont complètement, qui confortent tout à fait ça.
Ça prend un peu autour des mêmes pour les questions précédentes. Et d'ailleurs, ça circule le long de. D'une faille qui est tout au long de votre intervention sur l'importance de l'État-nation dans ce contexte ou plutôt son l'alternance de sa présence et son absence, en particulier de son absence par état depuis un certain temps. D'abord, une question enseignement pour aller très vite et sur lequel je crois que la réponse sera rapide. Vous avez parlé de Malik Chouré, le président actuel, le président du coup d'État, Sanogo, mais rien dit de l'Alpha Omar Konaré. C'était un peu éphémère, hein, son passage. Je voulais savoir comment il s'inscrit là-dedans. Voilà, je veux dire, c'est vraiment une question d'enseignement. Pour en revenir au rôle de l'État, et pour corroborer ce qui vient d'être dit, je veux dire, les premières attaques du fédéralisme, bien avant que ça se gâte au Sahel, en Europe, c'était quand même l'Union soviétique à la Yougoslavie. On a défait les États qui étaient fédérés, confédérés, ici, la différence est peu pertinente. D'accord. Et la plus grande base militaire américaine dans la région est actuellement dans le pays un des plus mafieux du monde qui s'appelle l'Albanie. Bon, je veux dire, c'est un corse qui vous parle, je ne donne pas de leçon. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, hein, je veux dire, et là, n'y a-t-il pas de distinction? Deuxième question de fond, c'est je crois que je vous pose, vous avez très justement distingué tout à l'heure, l'État-nation qui est le résultat d'une longue maturation historique, qu'on se retrouve au peu importe, enfin qui correspond à une substantialité en termes de liens historiques, et l'État-nation artificielle, fait par des négociations entre Français et Anglais sur les frontières coloniales, donc je vais dire ce qui est tout à fait pareil. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de la mafia? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan ces mafias qui sont soutenues maintenant par la grande mafia mondiale, le capitalisme mondialisant, comme je crois que vous l'avez très bien montré, qui a intérêt à bousculer l'État-nation? Moi, je n'écoute, je ne suis pas masochiste, mais j'écoute BFM Business exprès pour voir ce qui s'y dit, justement. Donc, vous avez une haine de l'État qui rendrait jaloux les anarchistes. Voilà, non, je vous montre quelques corrélations comme ça, qui sont pas évidentes pour tout le monde. Hein. Il y a quand même des philosophes de grands marxistes qui ont parlé du libéralisme libertaire, c'est pas un hasard. Hein. Bon, j'ai tout cela, on n'a pas le nommé. Et donc, je reviens à ce contexte. Est-ce que, par exemple, une mafia qui vient d'une solidarité locale, comme vous avez très bien dit, quand il y a crise, quand il y a malheur, on se replie sur la solidarité de proximité? Et voilà, la région à la nation qu'elle mérite et la nation à la région qu'elle mérite. Hein. Si l'État ne vient pas à irriguer la nation, la région a tendance à avoir des forces, à écouter les forces centrifuges. Ça, mais je veux dire, entre, je reprends l'exemple Corse, c'est prêt pour des passionnés, entre l'époque où le Corse qui fuyait la misère, c'était quand il n'y avait pas encore la promotion coloniale et puis le tourisme, et qu'il allait à Marseille, c'était la grande aventure, pour un peu de proxénétisme, un peu de machine à sous, vous voyez, avec solidarité locale, un cousin qui plaçait, c'est pas la même chose que les villas de Garot dont vous parlez. C'est-à-dire que le financement des mafias locales par la grande mafia mondiale, voilà ma deuxième question de fond.
On prend d'autres questions
ou... Oui, attends, on va peut-être... Il y en a trois ou quatre qui ont levé la main. Relevez la main parce que, voilà. Okay. Alors, tu passes, voilà, et puis après on prend.
Alors, je suis un peu désolé, je suis un peu perdu, je crois, tu me regardes. Certainement, toute une partie de votre proposition a pu m'échapper. Mais bon, moi, je traîne un peu dans ces régions-là. Et il y a quand même un élément important qui me paraît. Qui devrait être presque une introduction, c'est que cette région sahélo-sahélienne, à l'exception du Sénégal et de la Guinée-Bissau, sont des pays dont je parle depuis donc, la Mauritanie jusqu'au Soudan et jusqu'en Éthiopie, sont des régions qui s'étirent du nord au sud. Je veux dire, où effectivement on se retrouve avec des écosystèmes fondamentalement différents quand on est dans la région de Sikasso et quand on est à Villanesso, donc complètement différents dans un point important, avec quand même une histoire précoloniale qui fait que on a des rancœurs différentes. C'est le cas très fortement au Mali, de population noire par rapport aux populations touaregs, que l'on n'a pas au Niger. Donc on a très 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 peu au Niger, parce que c'est une proximité entre eux. Je veux dire, quand on voit un chevalier comme ça, un cavalier tchama et un chevalier touareg, on ne peut pas avoir la différence, sauf à nous deux autres chevaliers. Et donc, ça me paraît important parce que l'État-nation, ça existe dans la région. C'est une construction politique. Le Burkina Faso, Thomas Sankara a construit la nation. Au Burkina, à part la région du Soum, ou pour un certain nombre de régions actuelles, de raisons actuellement, il y a des problèmes qui se posent et qui sont à la fois des problèmes internes. Avec le ballement de Blaise, comme par exemple le fait que tout un tas d'éléments du SRP se sont barrés à l'extérieur et sont dans des trafics positifs. Mais il y a une véritable identité nationale au Burkina. Rien. Et je pense que moi personnellement, par rapport au Mali, et depuis très 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 longtemps, je pense que un fédéralisme avec effectivement un État c'est aussi une solution. C'est-à-dire que le véritable problème aujourd'hui, que ce soit au Mali, ou que ce soit, je veux dire que ça a été à moitié réglé dans la région, dans la zone centre-soudan. Quand je dis ça a été à moitié réglé, c'est le Soudan, avec l'indépendance du Soudan, où là, effectivement, le problème de contradiction impérialiste autour du pétrole et tout, fait pire la guerre. Mais bon, je pense qu'actuellement, et juste pour terminer, parce que je n'ai pas regardé longtemps, je sais que la première fois que j'ai foutu le pied dans le continent, ça, j'avais des cheveux marches encore tout jeune, et j'étais étudié les conséquences de la sécheresse de 1971-1972 sur les affrontements en Mauritanie entre les populations de l'heure. Aujourd'hui, il y a un point calme, ça fait quelques militants en Afrique, c'est de parler de la pression démographique. Le problème de la pression démographique, de l'accès à la terre, c'est un problème. Je veux dire, il n'y a que quand on va parler avec mes copains militants, c'est vrai. Et en même temps, je dis aussi, tout ce qui est conforme à l'accès de ma pisanie, je veux dire, ce n'est pas très marxiste ce que je dis, mais c'est factuel.
Attends, on va peut-être faire un premier tour comme ça, puis après on reprendra. Hein, on fractionne un petit peu comme ça. Ah, allez.
Bon, sur les populations qui arrivent au Niger. La grande différence entre le Niger et le Mali, c'est que vous avez des corails au Niger partout. Ça, c'est quand même un élément extrêmement important, n'est-ce pas ? D'autre part, vous avez des systèmes politiques complètement différents, des systèmes politiques touaregs complètement différents. Si vous prenez les touaregs du massif montagneux de l'Aïr, si vous prenez les Kelgrès, qui ont un phénotype noir, si vous ne savez pas, vous allez les confondre avec tout sauf avec des touaregs, ce qui n'est pas le cas au Mali. Au Mali, les populations touaregs sont circonscrites quasiment exclusivement, avec des particularités très très fortes pour les Touaregs sahariens. Donc, c'est-à-dire Kidal, la Dardésiforas, Tinzawaten, Tessalit, etc. Et puis, il y a eu quand même aussi la révolte de 63-64, qui a fait en sorte que c'était interdit. C'était interdit à tous les étrangers. Et les systèmes politiques touareg maliens sont relativement proches, même si certains sont matrilinéaires et d'autres patrilinéaires, c'est pas du tout les mêmes cas qu'au Niger. Au Niger, vous prenez la population Kelgrès, la population Kelloway, j'ai travaillé plusieurs années, même sur le plan culturel et sur le plan linguistique, c'est des gens qui parlent parfaitement le Haoussa. Allez trouver des touaregs, je ne dis pas un, des touaregs maliens qui parlent parfaitement bambara. Pour me les montrer. Donc il n'y a pas eu d'insertion ni d'intégration dans les structures nationales. Et au moment des indépendances, certains Touaregs maliens, notamment la Minocale de Kerane Fassa, a pris des positions. Il a dit, mais il est exclu que l'on se fasse commander par des Noirs. Donc ça repose le problème de la représentation politique du phénotype. Parce que dans toutes les sociétés, dans beaucoup de sociétés Touareg subsaharienne au phénotype noir, vous avez aussi les esclaves. La grande différence entre les sociétés de pasteurs nomades morts, arabes et touareg, c'est que les esclaves sont noirs. Donc la représentation du politique, elle passe par un phénotype. D'où le fait qu'on peut dire qu'il y a une dimension raciale qui intervient dans le politique. Et on comprend. Il y a des éléments d'explication qui dit quand le Kerane Fassa dit mais il est exclu qu'on se fasse commander par des Noirs. Dans la structure politique traditionnelle chez les Touaregs, l'esclave n'a pas d'existence sociale. Il n'a pas d'existence sociale, c'est une marchandise comme une autre, vous l'utilisez pour constituer la dot au moment du mariage. Enfin, j'insiste sur cet aspect-là. Comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui n'a pas d'existence sociale vienne me commander, moi, aristocrate, phénotype blanc, méditerranéen, roulant des épaules à longueur de temps? C'est pas concevable. En plus de ça, vous avez à l'époque de Modibo Keïta, qui avait une politique de vétérinaire sur le bétail, il avait une politique de vaccination avec des marques de vaccination sur le bétail. Vous savez comment ça a été interprété par les opposants à Modibo Keïta ? Ça a passé comme du petit pain. C'était les précurseurs de la collectivisation des femmes. Ah oui, mais en plus de ça, c'est pas de la dérision, hein, ça a été perçu comme tel. Il allait nous collectiver, il allait nous mettre nos femmes dans le collectif.
Vous voulez faire.
Le Mali, 25% de la population est lettrée. Je dis bien lettrée. Hein, c'est-à-dire, bon, voilà. Comment voulez-vous faire de la politique comme ça dans ce... Comment voulez-vous faire de la politique quand c'est circonscrit dans les centres urbains? Là, ils font des communiqués. Et les communiqués, c'est ce que je disais à Sissé. Je dis, mais tes communiqués, on n'en a rien à foutre, qui les lit? il faut nécessairement passer par des manifestations de rue. Oh, mais c'est pas la révolution. Alors, quand vous avez des gens de l'opposition qui assimilent une manifestation pacifique à une révolution, vous dites qu'ils n'ont pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, ça, c'était pour répondre à votre question sur les populations de Touareg. C'est un élément très, très important. Vous avez la population de Kayouras qui, dès le début, au moment des indépendances, vous aviez Mouldour Zakara, qui cumulait les fonctions de ministre de l'économie, des finances et des affaires sahariennes. Simplement que ça. Bon, c'était l'aristocratie de la région de Bonkoukou, mais le phénotype, si vous connaissez, si vous l'avez vu, il avait rien à voir avec le mythique Touareg, bien blanc, bien voilé, sur son chameau, du tout. Mais ça, c'est important dans le système de représentation et d'intégration dans les structures nationales. C'est pour ça que vous avez fait référence tout à l'heure au fait que l'identité nationale, elle existe au Burkina. Moi, je ne connais pas bien le Burkina, mais elle a eu existé aussi au Mali. Elle a eu existé. Elle n'existe plus, puisque maintenant, il y a une dimension de la nation ethnique à travers les rébellions Touareg. Les rébellions Touareg, l'indépendance, c'est une nation ethnique. Donc vous voyez, ça a des conséquences aussi sur les autres. Les autres disent, d'abord ils se sont armés. Je ne vois pas pourquoi moi, Sarah Collet de 27 Rogel, je ne vais pas prendre des armes, puisque la seule valeur qui est reconnue, c'est les armes et l'argent. Et avec les armes, je peux obtenir de l'argent. Donc ça fait tache d'huile. Comment voulez-vous sensibiliser aux politiques dans ces circonstances-là? Il y a une course au prestige. Et moi, je comprends, ça ne veut pas dire cautionner et admettre. Quand vous avez des jeunes qui n'ont pas de travail ni rien du tout et qui sont récupérés par les salafistes djihadistes qui, eux, vous promettent de la nourriture, etc., qui ont des actions sociales, j'étais extrêmement surpris il y a 3 ans d'apprendre que dans les campements Touareg, les salafistes envoyaient des dentistes. Maintenant, dans quel monde on est où ils n'ont jamais eu d'infirmiers, rien du tout. Donc ils donnent une image, après la représentation, c'est ça qui est grave. La représentation qu'ils se font, c'est une représentation fondée sur ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils font partiellement. Mais tout ce qu'il y a derrière, l'application de la charia au Mali, sur toutes les îles de la boucle de Niger, elle est appliquée selon les normes de la charia. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une des raisons pour lesquelles Iyad Agrali, avec Johan Saleddin, fait référence à la charia. L'idée de la charia telle qu'elle est pratiquée par la wahhabia, elle est déjà là. Donc il suffit que vous ayez un grand imam qui vous conforte dans cette idée-là, et puis bon, après ça passe. Comment lutter contre ça? Quand vous avez des militaires maliens qui n'ont rien, ils ne veulent pas aller se faire tuer moyennant un salaire de je ne sais pas combien, 100 000 CFA et tout. Donc, il y a une démobilisation redoutable. Et pour répondre, c'est vous qui posez la question d'Aoka, d'Alpha Omar Conaré. Le grand reproche que l'on fait à Omar Conaré, c'est qu'il a contribué au déclin de l'armée malienne. Il a considéré que, au niveau du budget, on est dans l'état pacifique. Bon, je caricature à peine, que c'était pas la peine d'investir de donner un grand budget au ministère de la Défense. Les Maliens vous disent, mais la situation actuelle résulte de la politique de Alpha Omar Conaré vis-à-vis de la Défense. Donc les gens ne peuvent pas se mobiliser. Ensuite, ils sont pas particulièrement, ils n'ont pas envie de se faire payer pour rien. Quand on met en prison des leaders de la rébellion parce qu'ils ont commis des viols, etc., etc., on les met en taule pendant 3 ou 4 mois et ensuite on les libère. Je ne vais pas les faire tuer pour des gens qu'on libère 3 mois après. Je vais vous citer un exemple très concret, vous n'allez pas me croire. Mais les conditions de réinsertion des ex-rebelles Touareg qui ont déserté, qui ont pris les armes contre leur patrie, les conditions de réinsertion, c'est qu'ils soient réintégrés dans l'armée au grade qu'ils avaient dans la rébellion, attendez, c'est pas fini, et qu'on leur paye leur salaire de toutes les années qu'ils ont passées dans la rébellion. Que font les autorités maliennes? Ils payent. Comment voulez-vous générer des réflexions d'éthique? C'est ça la situation.
Alors, il y a encore quelques questions qui vont être posées. Moi, j'en profite lâchement parce que je suis là. Parce que ce que tu as décrit sur cette zone-là, dans des formes différentes, on la retrouve dans beaucoup de pays du continent, finalement. Et tu as cité la présence militaire ou économico-militaire, disons. On voit qu'actuellement, il y a une véritable course dans ce domaine-là, hein, qui va de la Chine à la Russie, en passant par Israël, les États arabes unis, l'Arabie saoudite, les USA, enfin bon, j'en passe, et la France, bien entendu. Est-ce que c'est vraiment en lien avec le fait que l'Afrique représente un continent de développement pour le capitalisme qui est encore relativement inexploré et que finalement s'y installer d'une manière qui assure des possibilités aux investissements et pas le fond finalement de l'affaire, quoi. Bon, alors, après... Non, mais toi, tu seras le dernier, alors.
Il y a derrière toi, j'avais commencé. Hein?
Ah, mais c'est vrai, en plus. Jean-Claude, tu peux pas dire le contraire.
Alors, la question que j'aurais voulu vous poser, pour quelle raison, vous n'êtes pas remonté beaucoup plus loin que les années 90, à l'époque où c'était les Américains qui finançaient les groupes des indépendantistes, des soi-disant indépendantistes en Afghanistan, et lorsqu'on leur disait qu'il y avait... s'il y avait par exemple la question des droits de l'homme ou des droits de l'homme ou quelque chose comme ça, mais les filles disaient qu'est-ce que ça peut faire, l'essentiel c'est que l'URSS tombe. Et ce qu'il faut voir, c'est tout le poids de l'aide qu'ont reçu les islamistes, aussi bien de la part de la France, des États-Unis, et puis ensuite des partis comme le Parti Socialiste. Les Verts, à l'exception des communistes et des gouvernementistes, toute la classe politique française était pour les islamistes. Il a fallu attendre qu'il y ait le 11 septembre et les tours jumelles pour qu'il y ait une certaine prise de conscience de ce qu'était l'islamisme, le salafisme, et ainsi que tous les groupes. Je veux dire, les articles dans Le Monde étaient à hurler, dans Libération c'est exactement la même chose, et puis ensuite des donneurs de leçons dans les articles du Monde, des articles épouvantables de Jean-Marie Colombani en train d'insulter les autorités algériennes parce qu'elles ne faisaient pas alliance avec les islamistes. Il y avait une manifestation en avril 98 à Paris où il y avait de la Ligue communiste de Crimée jusqu'au pire islamiste. Dans cette manifestation. Je veux dire, il faut quand même pas dire ça. Alors ensuite, la prise de conscience de ce qu'était l'islamisme, de ce qu'il en était, est absolument épouvantable. Et même quand il y a eu les attentats du Préto à 75, Bruno Etienne, sur les ondes de France Culture, louait les islamistes en disant qu'ils ont un idéal de pureté. Donc, je veux dire, il faut voir comment, en tant que femme algérienne dans les associations, quand on essayait de montrer ce qu'était l'islamisme et ce que ce n'était rien d'autre que ce qui se passait à Kaboul, parce qu'on avait l'expérience de quelques années de ce qui s'était passé à Kaboul, comment on se faisait insulter et traiter de tous les coups. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec ce qui s'est passé en Syrie, les gens qui nous insultaient à ce moment-là font partie maintenant, certains, du Conseil national syrien, et on les voit à la télévision en train de pérorer sur ce qui se passe. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que le discours qu'avait tenu Le Drian au moment de l'opération Serval, c'était un discours néocolonial, il y avait même des lapsus, c'était absolument épouvantable à entendre. de ce qui se passe. Et encore aujourd'hui, avec tous les échecs qu'il y a de l'islamisme, il y a encore des gens pour essayer de les remettre encore en scène. Le problème n'est pas encore terminé. Que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, pas encore, je veux dire. Enfin, moi, je suis un petit peu ce qui se passe, j'allais dire, au confins de l'Algérie, entre le Mali, parce que les Touaregs, il y en a une grande partie en Algérie, et une partie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des gens qui les soutiennent, il ne faut pas... Je veux dire, des autorités, c'est ça qui les soutiennent, c'est ça le problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il aurait fallu... D'autre part, il y a quelque chose qui manque, je pense que aussi la présence de la Chine, vous n'en avez pas parlé. Mais la Chine, pour le moment, son rôle est plutôt, j'allais dire, commercial, économique, etc., sous couvert d'un certain nombre de choses. Mais elle ferme les yeux sur beaucoup de choses. Il faudrait peut-être aussi voir ça. Bon, c'est vrai qu'en une heure, on ne peut pas tout dire. Voilà.
Bonjour. Je suis très content de vous écouter, madame. Je la rejoins complètement et j'ajoute. Vous avez commencé par quelque chose qui m'a marqué, un peu risqué. Vous parlez, quand vous parlez de tous les mouvements, vous parlez d'hommes armés, etc. Mais quand vous parlez de l'Algérie, vous dites guerre civile. Nous n'appelons pas guerre civile, nous l'appelons guerre contre les civils.
Guerre comment ?
Guerre contre
les civils.
Contre les civils. C'est très important parce que ça ajoute, ça rejoint le kit de l'international socialiste. Et nous avons vraiment peiné, nous avons souffert de ces qualifications. Je voulais aussi intervenir sur quelque chose que peut-être. Je suis très intéressé parce que je vous remercie. L'armement. Diviser pour régner, c'est romain. Non, aujourd'hui, c'est comment vendre l'armement. On s'aperçoit que dans des pays pauvres, les gens sont surarmés. Ça, je voulais juste vous dire. Et vous dire aussi que nous parlons quand nous disons, islamistes, nous disons, l'islamiste défend Dieu. C'est lui qui défend Dieu. Il vous dit, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que Dieu ne va pas content. Donc, il vous juge. Et le musulman implore la protection de Dieu. Et donc, quand on parle religion, comme vous l'avez fait, à des moments, vous avez confondu, il me semble, vous avez confondu musulmans et islamistes. Et ça, c'est vraiment une confusion qui tue. Quand on parle des religions, des imams et tout, l'imam peut ne pas être islamiste. Il peut être un religieux, comme un curé, c'est tout à fait. Mais l'islamiste, c'est celui qui utilise la politique pour aller au pouvoir. Par la force. Alors l'Algérie, par exemple, vous venez bien de dire, de citer, de dire que comment l'armée, par exemple au Mali, a failli et c'est l'aventure. Eh bien l'Algérie n'a pas failli. Et on veut à l'armée algérienne de ne pas avoir failli à son devoir. Terrible. Merci.
Mais il y a le jeune homme là, et puis ensuite Jean-Claude.
Non, moi j'ai apprécié votre intervention. La question c'était plus au niveau des ressources pratiques. Par exemple, on a su que Daesh ou des états comme ça, islamistes, ont pu se maintenir en 80% sur le pétrole. L'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de ressources pratiques, il y a des phosphates, il y a du gaz. Surtout de l'uranium, quoi. Et les intérêts français sont liés à ça. Et ben, les intérêts géostratégiques premiers sont liés à ça. L'autre aspect, c'est sur le financement dont vous avez parlé, un peu l'économie souterraine et autres criminels. Il y a aussi le trafic d'êtres humains. Vous voyez les Toubous maintenant qui sont un peu au sud de la Libye, qui reçoivent le flot de travailleurs migrants comme ça, qui se retrouvent désemparés avec ça sur les bras, parce qu'en plus, ce sont à la fois des Noirs et des musulmans. Je ne sais pas le trafic d'êtres humains, ça a aussi existé en Yougoslavie. D'ailleurs, il n'y a pas que la CIA, mais beaucoup de gens ont soutenu l'État albanais et ça a donné la pire mafia du monde. Boucheka, ce n'est pas forcément une mafia en soi, mais Nous, on nous demandait en tant que militants de soutenir des gens qui se livraient au trafic de drogue, à la prostitution, au trafic d'organes, etc. Tout ce qui relève du trafic d'êtres humains. Je ne vais pas remettre ça dans le cadre de l'islam, des Touaregs, tout ça, ça n'a rien à voir. Après, c'est vrai que dans l'islam, c'est aussi une conception politique. C'est pour ça que cette force dans l'État disparaît, ou que les institutions s'écroulent, c'est qu'il propose un modèle d'organisation politique en soi. Islamiste, militant, mais ça, c'est la même chose.
Jean-Claude, tu as fini la série.
J'ai juste une petite question concernant la signification géopolitique de votre exposé. Dans le mouvement diplomatique de ce mois-ci, le monde diplomatique de ce mois-ci, il y a un article fort intéressant, je trouve, sur le fait que la diplomatie française est supplantée par l'action des militaires en Afrique. Partout où les militaires sont présents en Afrique, ils creusent des puits, ils essayent de conquérir les cœurs, etc. Et depuis une petite dizaine d'années, la diplomatie française qui normalement s'adresse aux États et intervient par l'intermédiaire des structures étatiques dans les capitales, a perdu 30% de ses effectifs par rapport à l'action diplomatique de la France dans le monde. À mon avis, ça a une signification particulière pour l'Afrique, c'est-à-dire que depuis l'intervention servale, les militaires le font tache d'huile et essayent de proposer des solutions politiques locales. D'après cet article, l'état-major particulier du président de la République joue un rôle très très important et supplante l'état-major général de l'armée. Et donc, on a une intervention, on aurait, si on suit cet article, une intervention directe du chef de l'État, enfin des lobbies qui agissent par le chef de l'État, par l'intermédiaire de l'armée, en court-circuitant et en mettant de côté complètement l'action diplomatique de la France. Et probablement, on peut se demander si c'est pareil, on peut se poser la question de savoir si c'est pareil pour d'autres puissances comparables à la France, parce que ça va dans votre sens de l'effacement des États au prix par les pouvoirs locaux manipulés ou appuyés par des forces étrangères. Et sur les pouvoirs locaux, vous avez parlé du pouvoir des imams au Mali. Le pouvoir des imams, c'est quand même une force de stabilisation de la société, mais c'est une force de stabilisation réactionnaire. Enfin, qui n'est pas pour les solutions progressistes éventuelles. Donc, si la société locale subsiste, mais que l'État disparaît, c'est le pain béni pour les sociétés transnationales, les pouvoirs locaux, etc. Donc, après, on peut parler de fédéralisme ou n'importe quoi. Il suffit de regarder une carte de l'Afrique, une carte du monde, avec les couleurs représentant les PIB par habitant. L'Afrique se distingue particulièrement comme le continent le plus pauvre du monde. Or, c'est le continent réservoir des matières premières. Donc, l'intérêt des multinationales, je ne sais pas si c'est vraiment d'implanter le capitalisme en Afrique, parce que les multinationales vont dans des endroits où il y a des systèmes d'éducation qui marchent. Donc, dans des endroits où les gens sont éduqués, ça intéresse les multinationales, ça permet d'implanter des productions modernes. Mais en Afrique, c'est des îlots qui sont comme ça. Il y a des petits endroits comme ça. Mais l'Afrique, c'est avant tout un réservoir de matières premières.
Je peux juste ajouter.
Oui, vas-y.
Voilà, merci à toutes les interventions. Merci à l'orateur. Je voulais juste rebondir sur cette question du fédéralisme, qui en fait n'est pas du fédéralisme. Je pense qu'il faudrait peut-être parler de néocolonialisme, c'est-à-dire un faiblissement de l'État qui prépare le terrain à quelque chose qu'on ne peut pas nommer, puisque maintenant on aurait honte à faire des colonies à nouveau, mais l'affaiblissement de l'État jusqu'à en faire une fiction sert les intérêts impérialistes. Donc on est en plein néocolonialisme, renforcé par le fait qu'il n'y a plus le monde bipolaire, disons, des deux superpuissances. Et donc, on y va, on s'en donne à cœur joie. La militarisation et l'utilisation des groupes islamistes armés qui, justement, comme a été rappelé, commencent par l'Afghanistan en fonction anti-soviétique, me semble être un peu le fil rouge totalement manipulé par l'Occident, qui n'hésite pas à manipuler des forces réactionnaires comme le Dalai Lama en Tibet dans un autre contexte. Donc tout ça va ensemble, c'est-à-dire c'est des logiques impérialistes néocoloniales. Et voilà, donc
je voulais juste rester sur ce point. Très court, d'accord. Oui, mais très court aussi. C'est la consigne.
Je serai d'autant plus court. Vous avez tout à fait dans le sens du précédent intervenant. Bon, d'abord, merci de la conférence. Je n'ai pas de désaccord de fond avec vous. Sur le fédéralisme, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas, et je pense que vous l'avez peut-être dit, mais peut-être pas suffisamment clairement, que les chefs historiques de l'indépendance africaine, les Keïta, les Nkrumah, les Lumumba, les Nyerere, etc., ils n'étaient pas tellement d'accord avec le partage des frontières telles que les puissances coloniales l'avaient laissé. Et leur souhait, c'était justement d'essayer de regrouper un certain nombre de pays pour faire une Afrique totalement différente de celle qui existe aujourd'hui. Donc il ne faut pas confondre l'institution politique du fédéralisme. Tout dépend comment on l'utilise après, politiquement, économiquement, idéologiquement. Le fédéralisme en soi n'est pas forcément une erreur. À partir du moment où les libératrices, évidemment, dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, avec la chute du camp socialiste, etc., et on voit bien ce qui se passe en Europe, cette organisation institutionnelle-là est faite contre les nations, contre les peuples, évidemment, et pour le grand bénéfice du capital financiarisé. Mais attention, le fédéralisme n'est peut-être pas forcément quelque chose à rejeter dans certaines conditions politiques, économiques, idéologiques, etc.
Dernier pour la route.
Oui, bon, je vais répéter quand même un peu. Très concrètement, la situation de la bande Saint-Joseph saharienne, le Nord Mali, le Nord Niger, le Nord Soudan, la région de Darfour. En dehors de ce que monsieur Lama tout à fait a dit, que ça peut être des zones d'exploitation minière, d'exploitation du sous-sol, la vraie question aujourd'hui, qui pose aussi la question du fédéralisme, c'est-à-dire de qu'est-ce que ce serait qu'une redistribution des zones riches par rapport à des pays, à des zones qui sont sous-développées, sous-industrialisées. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire que même si j'avais un milliard avec de telles d'idées impérialistes, qu'est-ce que j'irais foutre en Normandie? Qu'est-ce que j'irais faire qui favoriserait les populations du Normandie, Bosso, Touareg, Arabes, etc. Qu'est-ce que vous voulez conseiller? On parle sur l'Areva. Bon, je dis Areva, les besoins du fédéral. Je veux dire qu'ils sont présents. La France est présente, le Japon est présent. On oublie toujours de dire que le Japon est quand même présent à 22% dans le capital d'Areva. Il est sorti le Japon. Moi, j'ai rien contre le Japon, j'ai jamais les sushis. C'est pas la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être, dans le cadre d'une menace de Marxiste, voir quels sont les modèles de développement. Alors, ce serait un processus complètement européen au centre ici de cette pensée à partir de ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui permettrait un développement de ce que Semiramis appelait à l'époque de centrer de ces régions-là? Ça pose une vraie question. Et c'est vrai que là-dessus, je n'ai pas de réponse. Et en plus, je veux dire, je terminé après, je me suis dit effectivement.
Non, mais.
Ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que ce que l'on vit aujourd'hui en Afrique, et moi ça fait quoi, 40 ans que je vous dis là-bas, je vous dis dans Faradak, je travaille avec Interpokina, avec Togo, avec Tenin, et avec les amis, ça fait bon. Et je veux dire que depuis, c'est là le problème d'un moment auquel la Constitution de fait avec les trahisons, avec le duc de Bourgogne qui s'est accoutumé avec la. Et c'est tout, je sais. C'est en train de se construire. Et je dis que aujourd'hui, à part mettre en place, qui est une des idées dans les années 80, de faire dans le sud de la bande de Jérusalem, des grandes tranches d'embauche, etc. C'est-à-dire complètement casser les structures traditionnelles du système pastoral pour développer un système intensif de l'élevage. Moi, je n'ai pas de solution.
Bon. Alors là, c'est terminé pour les questions hein, et les interventions. André, tu conclues.
Un petit quart d'heure.
Voilà. Non, avant de conclure, je réponds.
Oui, non, mais tu conclues dans la réponse, je veux dire. Tu réponds dans la conclusion. Bon, en fait, c'est toi qui as le micro, définitivement. Ouais. Hein, toi.
Non, mais je vais répondre d'abord par la fin. Le fédéralisme est un type d'organisation du politique qu'on ne peut pas décontextualiser. Au moment des indépendances, les forces progressistes voulaient le maintien des grands ensembles laissés par la colonisation. La colonisation s'est opposée complètement à ça, parce que c'était constitutif de forces politiques qui pouvaient lutter contre le néocolonialisme. Ils ont dit, avec ces trucs-là, vous nous emmerdez, vous ne pourrez pas le faire. En revanche, prenez le modèle de l'État-nation, c'est ce qui s'est fait. Le fédéralisme entre le Sénégal et le Mali, la fédération du Mali, c'était qui a cassé la fédération du Mali? Les Français, qui avaient intérêt à faire en sorte que pour mieux dominer, c'est beaucoup plus facile de dominer un État-nation qu'un grand ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle je ne décontextualiserai pas le fédéralisme des circonstances historiques. Dans l'état actuel des choses, le fédéralisme ne peut que satisfaire les intérêts du capitalisme mondialisé. Parce que justement, il institutionnalise les rapports d'inégalité. Et donc, moi, je ne vais pas m'emmerder à investir dans des endroits, je m'en fous, ils crèvent les gens, je vais investir où je peux faire de l'argent. Et on retombe sur le problème des ressources extractives sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. On vous dit, les diplomates, la politique française, vous dit, mais c'est prometteur. Si c'est prometteur, ça veut dire que quand les conditions politiques seront réunies, on pourra passer à l'exploitation. Exemple, l'or à 30-40 km à l'est de Kidal, c'est déjà exploité. Ensuite, le pétrole de Taoudendi et le gaz de Taoudendi, bon, c'est à l'ordre du jour, mais ce qui est beaucoup plus important à Taoudendi, c'est l'eau. On parle très peu de l'eau, mais il y a toute une nappe phréatique qui est à cheval sur la Mauritanie, le Mali et l'Algérie, beaucoup plus importante que le pétrole. Beaucoup plus importante que le pétrole. Ensuite, vous avez des minerais de terres rares, je ne sais pas, je crois que c'est ça l'expression, c'est-à-dire des minerais que vous utilisez pour les iPhones, les ordinateurs, les télévisions et tout le bordel, là. Vous avez exactement ce type de ressources extractives à l'est, dans le Temesna malien, que vous retrouvez au Niger. Donc ça constitue des enjeux. Alors on va vous répondre, les diplomates vont répondre, mais oui, mais ce n'est que prometteur. Je dis, mais si c'est prometteur, ça veut dire que ça existe. Ouais, donc c'est ça aussi les enjeux. Quant maintenant sur le problème de la... Ça, bon, c'est sur le problème du fédéralisme. Vous avez raison de rappeler que on ne peut pas l'appréhender on ne peut pas le plaquer par analogie. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est que dans les circonstances actuelles, ça ne peut que satisfaire le système en crise. Parce que le système en crise, il a besoin de compétition. Et s'il a besoin de compétition, il a besoin d'inégalité. Sinon, moi, je ne gagne rien. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, sur la diplomatie française. La diplomatie française, je vais tout à l'heure vous citer un exemple. Il y a eu quand même pas mal, je n'ai pas pu faire le recensement, de diplomates français militaires. Ah oui, mais ça, c'est un élément nouveau. C'est pas quelque chose d'ancien, des militaires au grade de général ou de colonel qui sont diplomates. Celui du Burkina jusqu'à la relève, là, c'était un militaire, j'ai oublié son nom. Au point où, et ça c'est un exemple concret, l'ambassadrice de France au Mali, elle s'est fait dégommer parce que...
Administratrice des terres australes.
Voilà, exactement. Elle a dit, qui représente la France? C'est moi, c'est pas vous, militaire. Donc, cessez de me faire des enfants dans le dos. Ne prenez pas des initiatives sans m'en informer. Qu'a dit Le Drian? Tu t'écrases et tu dégages. Ils ont fait pareil avec l'ambassadeur Bouillet. Exactement, c'est-à-dire, quand un diplomate veut faire respecter son éthique et sa fonction, on lui dit tu t'écrases et tu dégages. Ça s'est fait déjà pour Bouillet. Alors Evelyne Decor, qui a son caractère, elle a dit non, ben, suis désolé, hein, c'est moi qui représente la France, c'est pas les militaires. Donc cessez de me faire des enfants dans le dos. Parce qu'en plus de ça, ils prennent des initiatives pour le développement. C'est ça aussi qui est intéressant. Alors c'est quoi le rôle de l'AFD? Quand vous voyez que le G5 Sahel, il a pour fonction aussi de faire des développements, que non seulement c'est le G5 Sahel militaire, mais que la France a créé l'Alliance pour le Sahel, qui est spécifique pour faire du développement. Au-delà de qui? Ça passe au-delà de l'AFD. À quoi sert l'AFD? Donc vous avez une prolifération comme ça d'entités, on se dit, mais où est le pouvoir? Donc après, on peut se dire, mais alors, cette parcellisation de pouvoir, etc., après on n'y comprend plus rien. Donc la question que je me pose, moi je me dis, plus on fait de confusion, mieux c'est pour le politique de Milan. Parce qu'après, on n'a plus d'éléments pour mobiliser, pour sensibiliser, parce que c'est une confusion généralisée. Quelque chose qui ne va pas, hop, on crée une...
Ce que dit cet article, c'est qu'un militaire, il rend compte directement à l'élite.
Oui, c'est ça. Oui, bah, oui mais avant vous aviez la cellule africaine de l'Élysée.
Juste un petit commentaire. L'article en question, il dédouane globalement la politique de la France impérialiste en Afrique. M'excuse.
Moi, je n'ai pas lu
très net.
C'est pas un article de
description. Oui,
bon, enfin... Bah, j'ai pas lu l'article de...
Je ne vais pas prendre les gens pour des idiots, quand même.
C'est pas un article...
Ah ben non, non, non. Dans le monde, on n'écrit pas d'article politique.
C'est l'article, comment il s'appelle, qui a
diplomatique.
Oui, mais j'ai pas encore lu. Ouais. Ben bon, ça ne me surprendrait pas. Mais là, non, je t'en prie, l'inflation du militaire, on ne peut pas le déconnecter de ses racines politiques. Eh ouais, c'est ça. Absolument. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, bon, j'ai pas fait de recensement pour le nombre de militaires qui étaient ambassadeurs, mais je crois que le militaire qui était ambassadeur de France au Burkina n'était pas isolé. Hein. Je crois qu'en RCA aussi il y a eu ça. Donc c'est ça aussi qui est grave. Ça veut dire que la diplomatie dépend de la défense et non plus des affaires étrangères. Eh oui. Eh oui. Où il y a l'argent? Plus à la défense qu'aux affaires étrangères. Je suppose. Je n'ai pas fait
d'analyse. Comme la défense va être fédérale en Europe.
Comment?
Et comme la défense va être fédérale en Europe, c'est la tendance, tout ce type.
Absolument. C'est pour ça qu'il faut une Europe de la défense. Et qu'il y a un grand accord entre Macron et puis comment ça s'appelle
Madame Merkel.
Madame Merkel, Angèle.
La France-Afrique sous-traitante de la mer Afrique.
Voilà, exactement. Bon, ça. Ensuite, le problème de la main-d'œuvre dans le cadre du fédéralisme, qu'il n'y aurait pas de compétences locales pour le faire fonctionner, on s'en fout. On prend la main-d'œuvre compétente, c'est aussi comme ça que les coopérants interviennent, ils comblent des incompétences, donc c'est facile de trouver de la compétence étrangère pour assurer la mise en place, la logique du système dominant. Maintenant, sur la notion de réservoir de l'Afrique, j'aurai des petites divergences avec vous. Autant le continent africain a été perçu comme étant le réservoir, qui faisait en sorte que l'on exploitait, on extrait, etc. Actuellement, ce n'est plus cette politique-là. La politique, si vous prenez RFI vous fait une tête comme une pastèque sur la création d'entreprises avec des succès. Il n'y a pas un seul exemple sur RFI, moi j'écoute tous les jours, qui ne vante pas les qualités d'entreprises privées par les jeunes, en s'appuyant sur la diaspora. Donc la diaspora devient un élément de pénétration de la logique capitaliste. Mais ça crée des contradictions. Si je prends l'exemple du Mali, les gens de la diaspora, ils viennent un peu gonflés, hein, on les dit, c'est comme les Toubabs, ils se comportent comme les Blancs, ça crée des antagonismes. Souvent, ils parlent plus bambara, ils ont un comportement, ils ont grandi ici, donc c'est pas du tout la même... Mais on s'appuie sur ces compétences-là. Et ce sont eux qui trouvent, que quand ils soumettent des projets, ils obtiennent de l'argent pour ces projets. Donc c'est plus uniquement du réservoir. Pourquoi c'est plus uniquement du réservoir? Parce qu'il y a une compétition très très forte, notamment la compétition chinoise. Donc dans un contexte de compétition, la France est obligée de prendre en considération les autres puissances qui ont des intérêts économiques et commerciaux. Ce qui ne veut pas pour autant dire que les Chinois sont appréciés en Afrique de l'Ouest, hein, l'Ouest s'en fout, y compris en Algérie. Les Chinois viennent avec la main-d'œuvre compétente, parce qu'ils considèrent que les Africains... On ne peut pas les faire travailler en 3-8, ils sont fatigués assez rapidement, donc ils viennent avec une main-d'œuvre chinoise, sauf pour les travaux subalternes, c'est-à-dire pour les guides, les chauffeurs, les trucs comme ça. Donc ils viennent avec tout un arsenal. Mais en même temps, ils sont très compétitifs. Très très compétitifs, y compris dans les rapports de coopération. Si vous prenez les rapports des Chinois avec le pétrole au Niger, le site de Ténéré, je ne me rappelle plus du nom, qui devait être accordé à Exxon, les autorités politiques de cette époque-là ont dit d'accord, vous faites, mais vous nous faites une raffinerie. Les autres ont dit allez vous faire foutre, on ne va pas s'emmerder à faire une raffinerie qui ne serait pas rentable. Là-dessus viennent les Chinois. Les Chinois disent vous voulez une raffinerie? Bon, on va vous faire une raffinerie. Ils ont fait la raffinerie à Maradi. Non, pas à Diffa. Zadar. Zadar, ils ont fait cette raffinerie. Ils sont aussi très présents dans l'uranium, ils sont actionnaires au sein d'Areva. Donc ils ont une stratégie.
Tout de suite, parce que ça ne va pas contredire ce que vous dites. J'ai entendu dire, des sources fiables, qu'il y a beaucoup de mariages, il y a quand même des mariages mixtes, c'est-à-dire que des Chinois épousent des Arabes, voilà, pas des Arabes, des Kabyles, enfin bref, des Algériens, hein, Algériennes, et également qu'ils apprennent l'arabe. Voilà, c'est tout.
Les capacités d'adaptation des Chinois, si je prends encore l'exemple nigérien avec le Vilichi ou bien avec les Bénins, ils se sont foutus à dos tous les Haoussa parce qu'ils font des Bénins qui vendent moins cher que quand c'est la Haoussa qui le fait. Imaginez.
Et ils savent faire le
Kélichi. Ils savent faire le Kélichi, ils savent faire les beignets et tout. Concurrence terrible. Je ne vous dis pas à Bamako, les restaurants hôtels douteux. Je dis bien douteux. Vous avez au rez-de-chaussée le restaurant, c'est la classe moyenne qui va manger là-bas. Et au premier, vous avez les chambres de passe. Pas avec que des dames chinoises, avec des dames locales ou ghanéennes. Donc ils ont une capacité d'adaptation et de récupération fantastique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont appréciés. Ça, c'est autre chose. Mais les constructions qu'ils font, les ponts, les stades, etc., effectivement, bon. Ensuite, sur musulmans et islamistes. Je ne sais pas qui me faisait remarquer ça, je m'excuse. Il est parti. Je n'ai pas parlé d'islamisme, j'ai parlé de salafisme djihadiste. C'est pas la même chose. Et puis le salafisme djihadiste s'attaque aux musulmans. Parce que l'islam salafiste djihadiste considère que l'islam sunnite, tolérant, maraboutique, etc., c'est du pipi de chat. C'est pas de vrais musulmans. Je peux vous les cassettes que j'ai fait traduire, mais je parle pas peu, que j'ai fait traduire de Koufa. Koufa traite les musulmans issus de Cheikhou Amadou. C'est pas n'importe quoi. C'est celui qui a fait le djihad peul dans le Massina. Il traite ses députés issus de cette famille-là de bâtards. Je dis bien de bâtards. Il utilise le terme que j'ai fait traduire à plusieurs reprises. Je dis mais c'est bien bâtard. Il dit oui, il les traite de bâtards. Pourquoi? Parce qu'ils ont voté. Ils ont voté la loi, le code de la famille. Et pour Koufa, il n'y a que ces quatre musulmans qui sont de vrais musulmans parce qu'ils n'ont pas voté le code de la famille. Donc ce n'est pas des bâtards. Et si ces députés-là qui ont voté le code de la famille sont des bâtards, le peuple malien est un peuple de bâtards. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc si vous voulez sortir de tous ces côtés mécréants, rallier les moudjahidines. C'est là qu'il fait référence aux combattants. Moi, je n'ai pas parlé d'islamisme. L'islamisme, c'est autre chose. C'est ça que j'ai voulu être précis sur le salafisme. Ça, c'est pour les musulmans. Ensuite, pourquoi ne pas avoir parlé du conflit de l'URSS et l'Afghanistan? Je ne peux pas parler de tout. Hein. Donc, j'ai fait simplement référence avec ACMI, où certains éléments avaient fait le coup de feu en Afghanistan. Le problème de la Chine, bon, c'est la même chose. Vous savez, c'est difficile de circonscrire un exposé. Je ne peux pas aller non plus trop, comme c'était axé sur le Mali et l'espace saharo-sahélien. Après, dans le débat, et c'est ce que vous avez fait, on peut déborder, bien sûr, sur les choses. Alors, l'insertion dans le capitalisme, j'ai répondu à partir de ça. Non, mais ça, c'est important. Hein. C'est important, c'est-à-dire que la logique du capitalisme actuel, c'est de créer les conditions de l'insertion dans la logique capitaliste. puisque ça sera nécessairement aussi une logique de subordination, plus de réservoir. C'est ce que font les Chinois. Vous voulez une raffinerie ? On fait la raffinerie. Mais on engrange aussi quelque chose là-dessus. Donc, ils sont quand même à l'OMC. Ben ouais. Donc, je crois que autant c'était vrai, autant
c'est quoi. La raffinerie, c'est un équipement.
Oui, c'est un équipement.
C'est voilà. Pas comme la coopération. En fait.
Voilà, absolument. Donc, maintenant, ce qui est à l'ordre du jour, ce qui est très révélateur, c'est RFI. C'est des heures entières sur le succès de gens qui prennent des initiatives pour faire des entreprises, pour faire des petites entreprises privées, notamment les femmes. Il y a toute une propagande sur RFI qui est faite avec les femmes qui s'investissent dans les entreprises et qui ont du succès. Je ne vais pas me dire que ce n'est pas pensé. Bon, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ?
Bien, écoutez, je crois qu'on peut remercier. Donc, c'était la dernière conférence de la saison universitaire, donc reprise début septembre. Vous passez de bonnes vacances, vous vous préparez psychologiquement et je vous donne donc rendez-vous. Alors j'ai oublié la date, mais vous allez recevoir
19
septembre. Voilà. Bonne soirée, bonnes vacances et puis à bientôt. Au revoir.
Merci de votre attention. Merci bien.
Ah, c'est une bière qui est 20h.
Bon, ça y est.
Je me laisse bavarder.